Nous sommes mercredi 10 juin 2020 et vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Galaxies. Qui ne répond pas. Bonsoir Nocton.
Salut.
C'est bien parti. Bonsoir Antix.
Bonsoir et puis j'espère que vous êtes contents de ce Super E3 avec plein de nouvelles annonces.
LOL.
Et bonsoir Zerli.
Salut.
Qui a le syndrome du canal carpien du mec qui s'est mal allongé sur son canapé pour glander devant ses jeux.
On dirait un titre de jeu japonais.
Canal Calpinu. Cette semaine, on va parler de Metroidvania. Alors, on remercie d'ailleurs d'avance alors le chat qui va voilà qu'elle est perdue. On remercie très 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 fort et on fait un très gros bisou à Tardy qui nous a fourni le conducteur quasiment tout fait.
C'est ça.
Et ça fait plaisir.
En trois parties, synthèse, antithèse, foutaise.
Exactement. Donc on est parfait. Et il n'y aura pas de tour de table de l'actu, enfin on ne fera pas les restes du monde. On
c'est
fera
quoi
pas...
l'actu?
Parce qu'il n'y a pas d'actu.
Parce que l'E3, si en fait on a l'actu de l'E3, voilà.
Mais il n'y en a pas.
C'est fait. Voilà, donc on va parler de Metroidvania. Et le chat ne va pas arrêter, je pense que c'est le thème de la soirée. Elle fait une contre-soirée toute seule.
Hein,
c'est un peu compliqué. Ah, voilà, ça fait plaisir. Donc on va attaquer sur le Metroidvania, on va commencer tout de suite avec les origines, puis on parlera un petit peu du second souffle, on va dire, du début des années 2000, et on va finir avec, on va dire, quelques Metroidvania un peu modernes, notamment chez les indés, c'est surtout là qu'il y en a maintenant.
Yes.
Pas que, hein, mais je pense qu'il a été cité, je crois, Jedi Fallen Order, qui est, voilà, reprenait un petit peu des touches de Dark Souls, qui lui-même, en fait, est plus ou moins un Metroidvania, un petit peu, avec une sauce un petit peu différente. Mais voilà, donc on va commencer par une espèce de définition très générale du genre.
Bon chance.
Ouais, il y a un peu de ça.
Ouais, c'est un peu compliqué, mais si on repart sur Metroid, le tout premier, l'idée c'est, on lâche le joueur dans un labyrinthe. Enfin, un labyrinthe, relatif, hein. On va dire dans une carte très ouverte. Enfin, très ouverte. Au début, non. Au début, on peut pas aller à beaucoup d'endroits différents. Et puis ensuite, on ramasse un item, un pouvoir, une capacité, une arme. Un peu ce que vous voulez, finalement. C'est en fonction, là, du lore du jeu et puis de l'histoire. On va ramasser un élément qui va ouvrir cette carte un petit peu plus et qui va vous obliger à faire du backtracking, c'est-à-dire aller revenir sur des endroits où vous ne pouviez pas aller jusqu'à présent. Et c'est surtout, en fait, un gameplay non linéaire. C'est-à-dire que c'est pas niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Non, c'est un petit morceau de la carte, on récupère l'item numéro 1, pouf, la carte s'ouvre un peu dans tous les sens, ça peut être à gauche, ça peut être à droite, ça peut être en haut, ça peut être en bas, puis on récupère un deuxième item et ça ouvre encore un peu plus la carte, et ainsi de suite, et on n'est même pas obligé d'affronter tous les boss dans le bon ordre. Alors, je crois que sur Metroid 1, il n'y a pas d'ordre imposé à partir de... Non, il n'y a pas d'ordre imposé du tout, si je dis pas de bêtises. J'ai un petit doute.
Je suis en train de essayer de me rappeler Zero Mission, parce que je
t'ai plus... Metroid 1,
je crois que t'as pas d'ordre imposé.
Je crois que dans le 1, t'as pas d'ordre imposé. Enfin voilà, pour donner un exemple typique de ce qu'est un Metroidvania, dans Metroid 1, tu débarques. Donc tu débarques à poil, hein, enfin à poil, en armure, mais psychologiquement
ouais,
à poil.
Quand même, parce que t'as 30% de points de vie au début du jeu.
Voilà. Alors les Zelda seraient-ils des Metroid-like vus du dessus? Pas vraiment. Il y a
tu
quand
vois,
même,
on est plusieurs à se poser la question quand même.
Mais va peut-être falloir qu'on l'éclaircisse un peu.
Alors le Metroidvania, il y a une particularité, je pense, c'est aussi que le monde est d'un seul tenant, ce qui n'est pas le cas dans Zelda.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des donjons ou des morceaux de cartes séparés ou des mondes parallèles, quoique les mondes parallèles, il y en a eu.
Alors ceci dit, voilà, les mondes parallèles, il y en a eu, et puis assez rapidement dans les jeux qui vont suivre, alors pas forcément Metroid, même si ça arrivera, mais notamment dans les variantes issues de Castlevania et compagnie, on va être beaucoup, enfin, ça va commencer à arriver un petit peu plus d'avoir des trucs qui ressemblent un petit peu à des donjons isolés, un peu comme ce qu'on a dans Zelda. Je pense à certains Castlevania notamment, qui sont un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que là-bas, la définition de base, c'est un monde qui va d'un seul tenant, d'où l'intérêt en fait de trouver des objets pour faire du backtracking.
Tout à fait. Et donc oui, mais alors Metroid, j'ai confirmation, ma mémoire me jouait des tours, mais effectivement les
tours.
merci. Ridley et je sais plus l'autre gros con. T'es pas obligé de les faire, tu peux les faire dans le désordre. De même que, en fait, le seul vrai item qui est imposé dans l'ordre, enfin, il y a deux items qui sont imposés dans l'ordre, il y a le super saut, si je dis pas de bêtises, qui est le deuxième item du jeu. Le premier étant la boule morph, et c'est assez génial parce que d'un point de vue design, ce que je disais tout à l'heure, donc tu débarques, un peu en slip, t'essayes d'aller à droite, comme dans n'importe quel side-scroller, finalement, ça marche pas.
Ah putain, c'est vrai, oui.
Ouais, tu peux pas y aller, t'as un mur. De l'autre côté, il y a une petite marche qui te permet, alors t'as un petit trou en dessous du mur, mais tu peux pas te baisser. De l'autre côté, t'as le même petit trou en dessous du mur, mais tu peux toujours pas te baisser. Par contre, t'as une marche qui te permet de monter. Donc tu montes, tu redescends, tu peux plus retourner en arrière, parce que le mur est trop haut maintenant, tu peux plus sauter. Et là, t'as un objet qui clignote, donc évidemment, tu vas dessus. Tu trouves la boule morph, on te dit t'appuies sur bas et tu te transformes en boule et tu peux circuler. Tu reviens par le bas du mur, et là, tu peux aller à droite. Donc en 25 secondes de gameplay, on t'a expliqué tout le jeu. Ce qui est quand même assez génial, on peut remercier Gunpei Yokoi encore une fois. Hein, c'est...
Enfin, t'as le côté horizontal, et puis quelques salles plus tard, t'as aussi le côté vertical.
Tout à fait. Le côté, on va te faire mon... Enfin, en bas, il n'y a pas de chemin, c'est une dead end, faut aller en haut, et à un moment en haut, il y a une porte sur la gauche, je crois, où on récupère le super saut. Ou le premier rayon, ou les missiles, je me souviens plus exactement, mais voilà, il y a le deuxième
item. Le tirlon.
Ou le tir long, oui, c'est bien possible que ce soit ça en plus. Voilà, donc les bases du Metroid-like, puisqu'on ne parle pas encore de Metroidvania à ce moment-là, c'est ça en fait. C'est vraiment, tu vas à droite, ça marche pas, bah tu vas à gauche, tu récupères un item et du coup tu peux aller à droite. Voilà, c'est le backtracking, nouvel objet, la carte s'ouvre un peu plus et on continue. Il y a quand même eu quelques copycat à l'époque, même si ça a pas tellement fait tache d'huile. Enfin. On nous a cité Monster Boy in Dragon's Trap. Alors, je suis désolé, je me souviens plus quel Monster Boy c'est, le 2, le 3, le 8, le 12.
C'est celui qui a été remaké à la sortie de la Switch.
Voilà, donc c'est celui qui a été remaké à la sortie de la Switch et qui reprend un petit peu le même principe avec un monde d'un seul tenant, avec des raccourcis d'ailleurs un petit peu entre les différentes zones du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une zone centrale qui relie tous les morceaux de monde, c'est ça aussi, hein, t'as pas vraiment de hub central qui relie tout, t'as des passages secrets ou des raccourcis qui permettent de passer du monde de la glace au monde de la forêt, puis du monde de la forêt au monde du désert, et puis parfois du monde du désert au monde de la glace directement sans repasser par le hub central. Alors Wonder Boy 3, oui, il y a un petit peu de Metroid dedans, ça reste... Si, ça reste quand même ténu. Je sais pas si vous, ça vous a plus fait cette impression-là. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on passe souvent par le hub central, même s'il y a d'autres raccourcis.
Par le petit village, t'as peut-être moins l'impression de te paumer dans un truc labyrinthique.
Voilà, les niveaux eux-mêmes sont moins labyrinthiques. Par contre, t'as le côté, les zones sont interconnectées entre elles.
Ouais.
Et t'as le côté, il faut un objet pour progresser.
Le level design du premier Metroid, où tous les fonds sont noirs, et où le seul moyen de te repérer, c'est la tronche des murs. C'est compliqué.
Oui, c'est compliqué.
C'est vrai.
Il faut quand même reconnaître. Bah, en fait, t'as les cailloux qui sont de couleurs différentes. T'as quand même les ennemis qui sont un peu différents, même si on en retrouve beaucoup de. Enfin, ils ont une couleur différente.
La musique est pas la même.
Dans les différentes zones.
Et puis il y a des zones où si t'as pas la variation, tu doux sa race.
C'est vrai. Mais parce que le premier Metroid est peut-être un poil trop ouvert, en fait. Une fois que t'as récupéré le tir long, globalement, on te lâche, on te dit bah vas-y, démerde-toi.
Ce qui est assez effrayant, en plus Metroid avait le même syndrome un peu que Zelda, où tu avais des passages secrets cachés derrière des blocs qui ressemblaient à n'importe quel autre bloc. Donc c'est un truc que par contre ils corrigeront dans la suite dans Super Metroid, alors je sais pas s'ils le font dans Metroid 2.
Metroid 2 est un
t'es
jeu...
beaucoup plus guidé.
Ouais, t'es beaucoup plus guidé.
Alors c'est un jeu Game Boy, c'est important de le rappeler parce que ça, à mon avis, ça a influencé pas mal le design.
Ouais, effectivement, les zones sont moins reconnaissables entre elles, du coup t'es quand même un petit peu plus guidé, et même si t'as toujours cette espèce de carte géante très interconnectée, avec effectivement des items qui te permettent, finalement le remake Return of Samus reprend quand même beaucoup d'éléments de ce truc là, t'es un petit peu plus genre effectivement je vide la zone 1, ça me permet de passer à la zone 2 et ainsi de suite, c'est un poil plus linéaire. Donc si tu te souviens de Samus Returns, finalement le déroulement est très très similaire. C'est très respectueux du jeu d'origine là-dessus.
Mais du coup, ça c'est quelque chose qu'ils vont corriger un peu dans Super Metroid, donc en 94. Super Metroid, d'ailleurs, on rappelle, un des jeux dont le développement était le plus compliqué chez Nintendo, en tout cas, l'équipe qui s'en occupait. Les mecs ont crutché comme des bâtards et ils ont un peu fini dans la sueur et le sang. Même Nintendo à une époque, hein, le crunch c'était un peu la base. Et ils vont quand même créer des éléments pour permettre de repérer, ben, ce bloc peut être détruit, et souvent aussi avec l'information de quel objet. Et qu'en fait tu peux retenir aussi quel objet va avec quel bloc, une sorte d'association d'idées, comme quand t'es gamin et que tu mets des cubes dans des trous.
Bah c'est un peu ça en fait, Super Metroid c'est un peu le jeu qui a finalement perfectionné la formule de l'origine, c'est-à-dire que tu sentais bien dans l'original qu'il y avait quelque chose, il y avait un... Enfin voilà, il y a quand même une idée de design derrière qui est intéressante, parce que effectivement t'as tout le côté non linéaire de l'aventure, t'as le côté la carte très ouverte, finalement c'est pas un open world à proprement parler, mais ça reste quand même une seule grande carte où tu fais tout, c'est-à-dire que c'est pas des niveaux séparés avec un temps de chargement entre les deux, t'en as des temps de chargement. Hein,
ouais, les petits ascenseurs.
Même. Les petits ascenseurs voilà. Entre les zones, quoi.
Il y a
5-6 zones grand max, en fait.
C'est ça. Et ça reste un monde extrêmement connecté dans lequel tu peux passer des cavernes, enfin du monde Fendrana aux cavernes de Magmor avec juste un ascenseur entre les deux. T'es pas obligé de repasser par un hub central. Ça fait aussi une grosse différence d'un point de vue design. Encore une fois, dans un Zelda, c'est plus, t'as une map de l'overworld, enfin t'as une espèce de carte du monde qui en fait va relier tous les donjons entre eux, mais finalement, d'un point de vue, si tu faisais un graphe, quoi, t'aurais l'overworld qui serait le nœud central, et puis t'aurais les différents nœuds qui seraient des donjons qui sont finalement tous indépendants les uns des autres. Le seul fait que tu les fais dans un ordre précis, parce que t'as les items qui te permettent de le faire, mais c'est à peu près tout. Donc Super Metroid, ça va effectivement perfectionner énormément cette formule-là, et ça va cimenter aussi un certain nombre de poncifs, c'est-à-dire le backtracking, les bouts de zone dans lesquels bah, tu peux pas vraiment encore aller, mais t'es quand même obligé d'y passer pour aller à la zone suivante, et du coup c'est super dangereux. Je pense à toutes les zones dans lesquelles t'as de la lave, mais t'es quand même obligé d'y passer, ne serait-ce que 30 secondes, donc t'es un peu en mode... Enfin voilà, on te met une olive, tu fais un litre d'huile, mais... Voilà.
Il y a une science du level design et de la façon d'orienter le joueur, notamment au début du jeu, où tu es finalement dans des zones assez cloisonnées, parce que même si on t'indique pas vraiment où faut aller, t'as pas énormément de choix, donc tu te retrouves assez facilement à prendre le chemin qu'ont voulu les développeurs pour toi. Et passer un certain stade qui s'ouvre quand même au bout de 3 heures de jeu, quand même, je pense que c'est quand tu as battu... Quand t'as battu Kraid ou quand t'as le Power Bomb, je crois.
Je crois que c'est Kraid, en fait. C'est quand tu bats le premier boss, si je dis pas de bêtises, où là, le monde s'ouvre énormément. C'est-à-dire que jusqu'à présent, t'étais, on va dire, un peu comme dans le premier Metroid, finalement. T'étais guidé. C'est-à-dire qu'on te faisait comprendre là où il fallait aller ensuite, c'est-à-dire quel était l'objectif suivant. Mais on te disait aussi, si tu peux pas l'atteindre par là, faut que tu fasses le tour par là. Enfin, tu vois, on te pose quand même les principes de base du jeu, du backtracking. Des éléments du gameplay non linéaire, du level design, tout ça, pas de problème, on te le pose. Mais derrière, on te tient quand même un peu par la main. Et à un moment, le jeu lâche prise complètement et tu te démerdes.
Ah oui, je me souviens, c'est quand tu récupères le Ice Beam et que tu peux remonter à Crateria où il y a ton vaisseau.
C'est ça.
C'est à peu près à ce moment-là. Et c'est ce qui était assez fou, parce que du coup, on se retrouve avec un jeu qui au début est très fermé, limite dirigiste, mais sans que ce soit trop évident. Parce que même si t'es dans des zones, enfin, tu peux pas sortir de la zone où tu te trouves, passer à certains points, t'as quand même pas mal de possibilités qui te sont offertes. Et puis à un moment, tu vas vraiment, la zone de jeu va vraiment s'ouvrir avec plein de trucs à découvrir, des upgrades à foison, que ce soit pour avoir plus de missiles, plus de super missiles, alors des choses qui étaient déjà avant, hein, évidemment, mais qui je trouve sont beaucoup plus marquantes dans Super Metroid, dans le sens où il y a un sens de créer des zones cachées et de les rendre, en fait, le joueur peut les sentir, en fait. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, enfin, c'est déjà utilisé l'expression, mais le Metroid Sense qui dit « Ah, là, il y a un truc caché, je dois faire
plus de blocs. » Oui, c'est le level design où t'as une plateforme en hauteur pas facile à atteindre, et puis quand t'arrives dessus, il n'y a rien. Enfin, Donc tu sais qu'il y a quelque chose, tu sais qu'il faut faire péter le mur, qu'il faut essayer de passer au travers, peut-être de sauter. Enfin oui, effectivement, t'as cette espèce de sixième sens. Enfin, pas sixième sens, en fait, c'est du bon level design, finalement.
C'est ça.
On te met une flèche avec un joli néon avec une flèche, mais pas si évidente que ça.
C'est ça, et alors pour y avoir rejoué en plus avec la sur la Switch, avec l'abonnement, enfin la Super Nintendo virtuelle, là. C'est vraiment moi ça m'a vraiment marqué à quel point je trouve que c'est extrêmement bien pensé, et que même quand tu tombes sur par exemple le double saut, j'étais ah j'étais cool, j'ai eu le double saut, je pense que je l'ai eu un peu en avance, et après je me suis renseigné, je fais non en fait c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse quoi. Juste que moi ça m'a donné l'impression de réussir à trouver quelque chose par moi-même, et c'est assez gratifiant en fait dans un jeu où t'es perdu et t'as vraiment pas d'indication, parce que pour le coup Super Metroid en a vraiment très très peu.
Parce qu'il y a deux choses très gratifiantes dans les deux premiers Metroid, dans un Metroid-like et dans un Metroidvania de manière générale, c'est que la première chose c'est que t'as toujours quelque chose à faire, c'est-à-dire que tu t'es jamais vraiment coincé. C'est-à-dire que même si tu te retrouves dans un cul-de-sac, le simple fait d'avoir tracé sur ta carte le cul-de-sac en question et d'avoir vu pourquoi c'était un cul-de-sac maintenant, je sais pas, il y a une porte rouge et tu sais pas comment ouvrir la porte rouge, c'est un truc de départ. Hein. T'as une porte qui est bloquée par un truc, t'as pas le pouvoir, tu tires dessus, ça marche pas, tu t'essayes un tour de magie, un machin, ça fonctionne pas. Donc, tu peux aller ailleurs, t'es jamais vraiment coincé. Ça, c'est un des principes de design aussi du Metroid-like, finalement, c'est le joueur a toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est très satisfaisant, parce que finalement, ça veut dire que on n'est pas obligé de le mettre vraiment sur des rails, on peut se contenter de le laisser se démerder. Et c'est ce que fait très bien Super Metroid, oui, au bout de 2-3 heures de jeu, il laisse le joueur se démerder complètement. Donc effectivement, de temps en temps, tu vas atterrir sur des cul-de-sac, et il faudra que tu repartes en arrière, mais t'auras quand même ouvert un bout de carte, t'auras peut-être trouvé quelques items au milieu, un bloc d'énergie, quelques missiles, enfin, c'est jamais vraiment perdu. Ton exploration est jamais vraiment... T'as jamais l'impression de faire quelque chose de totalement inutile dans le jeu et de pas avancer. Tu avances peut-être pas dans le bon sens, mais tu avances. Et le deuxième, c'est l'énorme satisfaction que t'as quand tu trouves un succès, un objet caché, ou que finalement tu trouves la suite du scénar. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être un putain de génie parce que t'es revenu en arrière pour aller chercher cette porte-là et que c'était bien la suite du scénar, alors qu'en fait, bah, c'était parfaitement prévu par les level designers. Ça, c'est quand même assez génial.
C'est ça, et puis il y a aussi, je trouve, cette satisfaction de monter en puissance, qui est vraiment très travaillée dans la série Metroid. En tout cas, vraiment à partir du Super Metroid, où plus tu avances et plus tu as des upgrades qui sont fortes, qui sont pétées, et qui en fait tu passes de le chasseur, mais genre qui est juste venu avec son petit flingue le dimanche, à une espèce de... Pas de surfemme, parce que t'es pas non plus invincible, mais t'as
un spoiler.
Pardon.
C'est très bien.
T'as le saut infini, t'as l'attaque vrille qui t'est sur ton passage, t'as le rayon qui traverse les ennemis et les murs. Et il y a aussi un côté très satisfaisant à trouver des power-ups, c'est parce que tu sens vraiment plus fort. Et c'est con, mais je trouve que c'est quelque chose dont le Breath of the Wild s'est un petit peu inspiré, alors pas dans les proportions de Super Metroid. Mais t'as un peu ce côté genre, plus t'avances dans le jeu, plus tu progresses, plus tu réussis les choses, plus tu deviens fort et plus tu peux te sentir à l'aise en fait dans tes déplacements et dans ton exploration du monde, et ça c'est quelque chose qui est vraiment gratifiant en Super Metroid.
Je vais rebondir un petit peu là-dessus. Tout à l'heure tu parlais du fait que quand t'as récupéré le double saut, t'avais l'impression de l'avoir eu en avance, et c'est quelque chose du coup qu'on retrouve aussi dans Breath of the Wild. C'est que dans le level design, alors il me semble avoir lu que ça avait été fait exprès pour Super Metroid, t'as des possibilités de casser la séquence. Tiens, de base, t'es plus ou moins prévu pour récupérer objet 1, puis aller boss 1, puis objet 2, puis aller boss 2. T'as des gens qui vont être en mode « j'en ai rien à foutre », directement objet 3.
C'est exactement le cas. Enfin, en fait, le sequence break, c'est particulièrement valable, effectivement, dans les Metroid-like. Je me rappelle que Metroid Prime, le speedrun de base de Metroid Prime, l'objectif premier, c'est d'aller récupérer les bottes de double saut, qui est genre le 5 ou 6e objet, et d'aller récupérer en premier, et du coup on casse complètement tout le début du jeu, parce que voilà, alors c'était pas prévu en l'occurrence.
C'est un glitch, hein.
C'est un glitch, voilà. Je sais pas à quel point dans Super Metroid c'était prévu ou pas. Je me dis que...
Je sais pas, il me semble avoir lu que largement... Pas anticipé, mais largement...
Faisable en trichant un peu, mais pas tant que ça si t'es un peu malin.
Quand tu regardes la progression de Super Metroid, en fait, elle est super linéaire. T'es obligé d'affronter les boss dans l'ordre quasiment. Enfin, si tu joues normalement, t'es obligé d'affronter les boss dans l'ordre. Mais le jeu a deux techniques secrètes, donc maintenant qui sont extrêmement connues, qui sont le Shine Spark, donc qui consiste à partir avec la super vitesse, de s'arrêter et d'effectuer un saut pour aller propulser à toute vitesse dans une direction. Et aussi le rebond sur les murs que les joueurs de Mario 64 connaissent très très bien. Et en fait, c'est deux techniques qui ont été maîtrisées à un niveau qui est tellement incroyable par les speedrunners et les joueurs de Super Metroid qu'elles ont permis vraiment de casser le jeu. Et même s'ils n'ont peut-être pas été prévus, ça n'a pas été prévu que ce soit utilisé à ce niveau de cassage de jeu, je pense que les développeurs l'avaient anticipé avec des raccourcis et des objets que tu peux obtenir grâce à ces méthodes.
Bah oui, c'est, enfin, à mon avis, il y a un poil de gameplay émergent là-dedans, mais il y avait peut-être effectivement une réflexion derrière. C'est-à-dire que je me dis que les mecs ont dû dessiner le graphe item, événement, boss, etc., etc., et qu'ils ont, à un moment, ils ont aussi dû se dire, bah, qu'est-ce qui se passerait si le joueur faisait ça, et faut pas qu'il soit coincé. Et je pense que c'est peut-être plus dans ce sens-là. C'est-à-dire, je dis pas que c'est prévu au sens où ils prévoyaient que les joueurs allaient faire des conneries. Mais c'est peut-être simplement prévu pour éviter que les mecs se retrouvent coincés.
C'est envisagé, quoi.
Voilà, c'est envisagé,
après,
pas forcément...
C'est des techniques très velues, hein, en termes de...
Le saut contre les murs, franchement, il est... Bon, il y a un petit timing, hein, mais...
Bah, le saut de Super Metroid est très étrange, donc moi, je trouve que je suis beaucoup moins à l'aise que dans Zero Mission, par exemple, pour le faire,
oui,
même si j'y arrive.
Pareil.
Hein. Et le Shine Spark a quand même un contre-coup qui pensait faire perdre sa vie.
Ça, c'est un petit peu plus... voilà, ça ressemble quand même beaucoup plus à un glitch.
C'est deux... Non, c'est pas des glitchs, parce que c'est... dans le jeu, ça t'est montré.
Oui, c'est vrai.
Tu as...
c'est vrai qu'on te le montre. Hein,
les bébêtes.
Les fameuses bébêtes que tu peux sauver à la fin du jeu, qui sont devenues maintenant une espèce de truc de fan en speedrun. À deux endroits dans le jeu, donc de mémoire, c'est du côté de Brinstar. Alors, pas dans les mêmes parties de Brinstar, mais c'est du côté de Brinstar. Tu rencontres ces deux bestioles, tu fais l'espèce d'autruche qui t'apprend à faire le Shine Spark, donc le super saut après la super vitesse. Et tu as les espèces de petits marsupiaux qui t'apprennent à faire les sauts sur les murs. Et en fait, c'est deux techniques que tu es obligé de réussir si tu veux pouvoir sortir du cul-de-sac dans lequel tu t'es retrouvé.
Ah, je me rappelais pas de ça, c'est marrant.
Enfin, j'ai refait il y a pas longtemps,
okay,
et j'ai
non,
c'est... tombé sur ces deux zones. Donc, je peux te dire que non, c'est bien dans le jeu, c'était bien prévu, c'est pas des bugs.
D'accord. Bon.
Et un truc, il encourage plus. Alors, surtout le premier, le Super Metroid, je sais plus, mais le premier, il encourage plus ou moins le speedrun.
Alors, tu as. T'as toujours Super Metroid, Metroid, Metroid 2, Super Metroid et tout ça, t'as toujours un chrono à la fin. Et si tu finis le jeu en moins de X minutes, à chaque fois, t'as une espèce de récompense. Alors généralement, pour Super Metroid, c'est juste une petite cinématique avec Samus hors de son costume. Dans Metroid 1, c'était pareil. En fait, l'idée, c'est pas forcément encourager le speedrun, mais
c'est gratifier un bon chrono.
C'est exactement ça,
c'est
gratifier un bon chrono. C'est plus une espèce de récompense pour un bon chrono.
C'est clairement là, pour Metroid 1, ils ont dit que Samus était une fille, ils ont dit ah, ce serait une bonne récompense pour les joueurs. Alors, de nos jours, je pense que ce genre d'explication passerait pas du tout.
Non, c'est pas ça. Non, mais moi, je le vois plus comme les premiers Resident Evil, qui n'étaient pas forcément très orientés speedrun, mais en fait, c'est plus façon jeu d'arcade, finalement. C'est-à-dire, t'essayes de battre le meilleur score, et là, comme il n'y a pas vraiment de score, bah, le meilleur score, c'est le temps que tu mets.
C'est ça.
C'est plus ça.
Mais
donc,
ça m'a été vu comme une récompense. Hein. Ça, c'est...
Au départ, oui, ça, sur le premier, j'en suis à peu près persuadé. Bah, suffit de voir la façon dont la cinématique elle-même est amenée. C'est un peu maladroit en plus.
Attends, un bikini en pixel, c'est priceless. Hein.
Ah, je veux dire, ça, y a quand même de quoi faire sauter sa braguette. Bref.
Pas le terme que j'aurais employé, mais.
C'est quand même la mimole que t'auras le plus de mal à assumer de ta vie, donc voilà.
Elle avait les cheveux verts en plus.
Oui, non, mais voilà, mais c'est simplement, c'était vu effectivement comme une récompense, mais l'idée derrière, c'est quand même, effectivement, de récompenser les gens qui vont un peu plus vite ou qui recommencent le jeu en essayant d'aller un peu plus vite. Sachant que Metroid est un jeu que tu peux perfectionner en termes de temps, c'est-à-dire que la première fois que tu le fais, et moi je l'ai fait il y a quelques années maintenant, avec juste une carte, parce que t'as pas de carte, hein, dans le premier Metroid, t'as pas de carte. Donc moi, juste avec une carte, avec pas les items dessus, mais juste une carte qui permet quand même de se repérer un peu et d'avoir une idée d'où sont certains passages un poil obscur, faut quand même être honnête, tu finis le jeu une première fois, et en fait, une fois que tu as fini une première fois, la deuxième, tu vas pouvoir optimiser un petit peu ta route, parce que tu vas faire un peu moins d'exploratoire et un petit peu plus de, bah, suffit d'aller là, là, là. Et la troisième fois, effectivement, tu vas encore optimiser ta route, et en fait, c'est plus... Voilà, c'est plus à rapprocher pour moi du challenge de type d'un jeu d'arcade, où effectivement, plus tu y joues, plus tu le maîtrises, et donc plus tu vas aller vite, et donc bah, la récompense qui suit, c'est ton temps s'affiche, il est de plus en plus bas, et donc bah, tu vois Samus sans son casque, puis Samus sans son armure, Bon, il n'y a pas autre chose que ça, mais je pense qu'il faut plus le voir comme ça. Et Super Metroid, c'est pareil, t'as une cinématique de fin qui est un petit peu différente, et tu as l'image de fin avec ton temps qui est un petit peu différente à chaque fois.
Ouais, d'ailleurs, c'est... Bah, ça c'est une constante sur tous les Metroid 2D, au moins jusqu'à Zero Mission, je sais plus s'il y a ça dans Samus Returns, et je pense pas qu'il y ait ça dans OverM. C'est vraiment l'idée de plus tu vas vite, plus tu vas avoir une image différente. Alors en plus, Zero Mission avait poussé le vice assez loin à faire des combinaisons entre la vitesse et la quantité d'objets que t'as récupéré.
Et puis t'as le pourcentage aussi.
Ouais, alors sachant que la plus dure à obtenir, c'est 2 heures et 100% des items du jeu, ce qui est chaud. Hein. Ouais, très très chaud.
Ça rigole pas.
Mais c'est intéressant en fait comme idée, ce côté plus tu finis vite, plus tu es récompensé. T'as tout ce côté en fait. Les jeux sont courts, ça on a une tendance à oublier, mais Metroid en général c'est 5-6 heures de jeu. Malgré le fait que tu connaisses pas le trajet et compagnie. Alors peut-être pas le premier, parce que tu dois te perdre assez facilement, mais typiquement Super Metroid ou les épisodes GBA, c'est vraiment 5-6 heures de jeu calibrés. Pour garder un bon rythme, et t'as vraiment cette idée, je pense, de permettre aux joueurs de faire des meilleurs temps pour avoir une meilleure récompense, donc d'encourager la rejouabilité.
Je pense aussi. Bon, allez, on va marquer une première petite pause musicale avant d'attaquer la seconde partie, le second souffle, c'est-à-dire que là on a vraiment les origines, donc le Metroid-like, même si ça s'appelait pas encore comme ça à ce moment-là. C'est à peu près la façon dont on peut l'analyser aujourd'hui. Et je vais donc révéler la surprise.
Oui.
Oh.
Alors, nous allons nous écouter un petit morceau de la bande originale de Metroid Other M.
Je me casse.
J'espère bien que tout le monde va se casser. Là, j'attends la grève. Oui, fouettez-moi. Voilà, c'est extrêmement plaisir de vous troller. Alors en fait, c'est juste la musique d'intro qui en fait est juste un remix du thème de Metroid, l'original. C'est plutôt bien foutu d'ailleurs, donc bon, y a pas de quoi hurler au scandale. Voilà, mais ça m'amusait de mettre la musique d'un Metroid qui est pas un Metroid. Bref. Donc voilà, on va écouter donc la musique du titre de Metroid Other M. Ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et c'est la reprise.
Prise.
En fait, je pourrais dire n'importe quoi, ça marcherait.
Oui.
Alors, Metroidvania, le second souffle. Alors, ce qu'on va appeler le second souffle, c'est ce qu'avait tenté de dire, Tardy, qui nous avait fourni le conducteur. Parce que là, c'est quasiment ça. Ils avaient dit, voilà, c'est vrai qu'il y a la période de la naissance, Metroid 2 qui modifie un petit peu la formule, mais qui finalement innove pas tant que ça. C'est surtout, il a été à mon avis très contraint par la plateforme Game Boy. Et puis bah Super Metroid qui vraiment va aller ancrer un certain nombre de poncifs, c'est-à-dire qu'on va commencer à définir un peu plus un genre. On jette pas les bases, hein, on est vraiment plus dans quelque chose d'ancré. Et bah Iga débarque. Alors c'est Shigeshito Igarashi. Je me souviens jamais de son nom.
Un type de chez Konami.
Un gars de chez Konami débarque, on lui colle Castlevania dans les pattes. Et Castlevania, jusqu'à présent, c'est un jeu d'action finalement très linéaire. On se rappelle tous de Super Castlevania, on démarre à l'extérieur, on franchit les jardins, le cimetière, on arrive à l'entrée du château, on monte dans les étages. Mais voilà, finalement, on va d'un point A à un point B, il y a des boss au milieu.
C'est pas loin du run and gun, ouais.
Ouais, c'est un peu le prototype du jeu d'action plateforme des époques 8-16 bits, comme Mechaman le fait très bien, d'ailleurs je pense que c'est son concurrent principal.
Alors la seule différence, c'est que Castlevania, c'est même si c'est des niveaux bien séparés, ils ont quand même une certaine continuité déjà. Donc t'avais déjà cette base-là. Tu te balades dans le château de Dracula.
C'est très souvent ça, oui. Et puis il y avait aussi Simon Quest qui avait un aspect...
plus Zelda-like en l'occurrence.
Pas monde ouvert, plus Zelda-like, très inspiré de Zelda 2 d'ailleurs.
Tout à fait.
C'est quelque chose qui existait déjà hein, dans Castlevania. Il y avait aussi des... l'épisode juste avant, Rondo of Blood, qui avait des embranchements.
Oui, tout à fait. Et Castlevania 3 qui avait aussi des embranchements, puisqu'en
et
fonction.
Plusieurs personnages jouables.
C'est ça. Et en fonction de l'embranchement que tu prenais, tu n'affrontais pas les mêmes boss, donc tu n'avais pas forcément les mêmes personnages jouables, donc tu avais quand même. Voilà, il y avait un embryon de quelque chose, mais c'était vraiment un embryon. Embryon au sens embryonnaire du terme, c'est-à-dire vraiment tout petit. Voilà, j'espère que c'était clair. Et donc Iga débarque et il repense un petit peu la série Castlevania avec Symphony of the Night. En reprenant un côté Metroid, tu n'explores finalement, alors, qu'un seul château, on va mettre des gros guillemets, hein, mais tu explores un seul endroit, une seule carte linéaire, qui est quand même découpée avec plusieurs morceaux, avec un grand couloir d'interconnexion qui est en plein milieu, qui s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs, je crois que ça porte un vrai nom, je me souviens plus, donc t'as une espèce de grand couloir au milieu, et puis t'as plusieurs zones, t'as la bibliothèque, la chapelle, les égouts, enfin voilà, t'as quand même des zones bien définies, et tu vas avoir tout un tas de raccourcis entre les zones, donc là on retrouve finalement une carte à la Metroid, et puis un principe d'exploration à la Metroid, c'est-à-dire que faut récupérer des pouvoirs de Alucard pour pouvoir aller dans ces différentes zones. Donc là c'est pas des items ou des armes ou des choses comme ça, c'est des pouvoirs, mais ça revient fondamentalement au même. Tu récupères un truc pour pouvoir ouvrir la carte de plus en plus.
Ça, par exemple, pour avoir un double saut, ou pouvoir passer à travers certains murs.
Ou devenir une chauve-souris, ouvrir les portails bleus.
Et ouais. Par contre, il y a un truc qui est un petit peu différent dans ce Castlevania par rapport à Metroid. Metroid, on a Samus qui est un personnage qui a une progression qui ne fait que par les items. Les items qu'il ramasse, c'est des upgrades qui sont quasiment permanentes. Symphony of the Night va introduire des mécaniques qui n'étaient pas présentes dans Metroid, qui sont des mécaniques issues du RPG. Donc tout simplement le fait de prendre des niveaux. Donc Alucard va monter de niveau au long de l'aventure, et aussi récupérer et pouvoir s'équiper de divers équipements, donc principalement des épées, des armures et des accessoires pour pouvoir avancer dans le jeu.
Et des familiers, puisque tu as le...
C'est vrai qu'il y a les familiers aussi. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir, de toute façon, la base de tous les Castlevania qui vont suivre. Et quand je dis tous, c'est vraiment quasiment tous. C'est aussi à cause de cette petite différence qu'on va parler non pas de Metroid-like, mais de Metroidvania à l'heure actuelle, c'est qu'il y a maintenant, il y a aussi ces jeux qui ont cette composante RPG, avec ce personnage qui va progresser, monter de niveau, au fur et à mesure de notre avancée.
Et avoir un inventaire éventuellement plus complet, mais surtout plus complexe.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas juste, tiens, tu as récupéré le canon de glace, et puis, t'as le canon de glace. Non, c'est, tu vas récupérer l'épée de glace, mais qui va être efficace contre les ennemis de feu, mais quand tu vas rencontrer un ennemi de glace, faudra prendre ton épée de feu. Enfin, voilà, t'as ce côté plus stratégique sur les combats, et puis t'as ce côté, effectivement... reprendre un peu finalement une partie de la mécanique du Castlevania d'origine dans lequel les haches étaient plus efficaces contre les squelettes, les couteaux étaient plus efficaces contre les zombies et les autres bestioles. Enfin voilà, t'avais ce côté de temps en temps, t'avais intérêt à garder ton item parce que tel boss était plus facile. Finalement, c'est reprendre ce truc là et le complexifier encore un petit peu et lui mettre encore un peu plus de chair autour de l'os finalement.
Puis aussi une forme de filet de sécurité pour le joueur parce que les ennemis sont aussi indexés, enfin. Sont aussi équilibrés pour être affrontés avec des niveaux précis, ou en tout cas une plage de niveaux précis. Et ça veut dire que si t'as des difficultés contre un boss, en fait tu peux décider de revenir un petit peu en arrière, monter de niveau, et hop, aller l'affronter avec un meilleur niveau pour te faciliter la vie. Ce que tu ne peux pas faire dans Metroid, en tout cas pas de façon aussi simpliste, dans l'idée dans Metroid, si jamais t'as du mal contre un boss, tu vas devoir aller chercher des réserves de missiles ou d'énergie, mais là par contre il faut les trouver, ce qui est un peu plus dur. Là t'as pas besoin.
Ce qui est un peu plus compliqué. Là, finalement, il suffit de grinder, entre guillemets, dans certains niveaux, et puis tu y arriveras.
Alors, dans une certaine limite, évidemment, hein, mais est-ce que la capacité du joueur à esquiver les attaques et à donner les coups au moment, évidemment, reste importante. On n'est pas dans Final Fantasy.
Tout à fait.
Mais voilà, il y a cette composante RPG qui vient apporter quelque chose en plus au genre du Metroidvania.
Et il y a un dernier élément aussi qui est très important que j'avais relevé, il y a l'apparition des téléporteurs. Aussi, parce que dans Metroid, il n'y a pas de téléporteur, et dans Super Metroid, il n'y a pas de téléporteur. Donc quand tu dois te rendre de la zone A à la zone C, Et ben, s'il n'y a pas de chemin direct, ce qui arrive de temps en temps, hein, les zones ne sont pas, enfin, c'est pas des interconnexions N pour N, hein, on n'a pas 100% d'interconnexion entre toutes les zones, ben, faut parfois te taper un passage par la zone B. Alors, généralement, c'est ce qu'on disait dans Super Metroid, à un moment, tu finis par être tellement puissant que il y a des zones que tu traverses en mode, voilà, au départ, c'était la panique parce qu'il y avait de la lave et tout ça, fallait que tu fasses très attention, ta vie baissait, enfin, c'était le bordel. Et après, t'as le Variasuit, donc tu bourrines comme un sac et ça marche. Symphony of the Night, le château est tellement grand que tu as des téléporteurs qui sont à des endroits réguliers, et donc ça te permet finalement de stratégiquement prévoir tes déplacements pour aller plutôt te téléporter vers une zone précise pour aller sur un truc qui est juste à côté. Ça a l'air de rien comme ça, mais effectivement, si les cartes s'agrandissent, si les interconnexions entre les... Enfin, s'il y a de plus en plus de zones et que les interconnexions entre les zones deviennent donc un peu plus compliquées à faire d'un point de vue level design, le téléporteur, ça permet de très bien s'en sortir.
Bah, surtout dans le cas de Symphony of the Night où il y a... Alors, spoiler alert, hein, cette fois, je préviens, contrairement à la fois d'avant. où en fait, quand tu penses avoir fini le jeu, en fait, il y a une espèce de fin cachée. Enfin, c'est pas une fin cachée, mais en gros, pour avoir la vraie
c'est
fin
du
jeu...
C'est le bad ending, en gros.
T'as le bad ending où tu finis le jeu en étant arrivé en haut du château, en affrontant le boss qui s'y trouve. Et puis tu as une deuxième moitié de jeu, en fait, qui est cachée intégralement derrière une série d'événements et de quêtes à réussir, qui maintenant est très connue, et qui, en fait, t'accèdes à une deuxième carte, un deuxième château, qui est un château à l'envers, donc le même, mais dans le sens, donc on se balade sur les toits. Et mine de rien, avoir des téléporteurs quand tu as une deuxième zone de la même taille que la première de disponible, ben, c'est pas plus mal pour le joueur. Surtout que, si j'ai bien compris, le château inversé, tu n'y accèdes pas non plus à n'importe où depuis le château de base.
Je crois qu'il y a quelques ponts, entre guillemets, entre le château normal et le château inversé. Et ensuite, je crois que tous les téléporteurs, par contre, sont connectés. Il me semble. Alors Manolo, pour ta question, Symphony of the Night sur une console Nintendo, est-ce qu'il n'est pas sorti dans la compilation Castlevania qui était disponible?
Non, c'est la merde.
Ah, je ne savais pas.
Il y a eu deux compilations Castlevania sorties ces dernières années. Donc t'as eu celle qu'on a eue sur Switch avec que les épisodes de plateforme NES Super NES, et tu as la compilation avec Rondo of Blood et Symphony of the Night, donc qui sont deux jeux qui suivent, hein, dans le scénario de Castlevania. Et elle est sortie uniquement sur PS4.
Ah putain, c'est la loose.
Alors j'aurais préféré avoir celle-là, moi.
Bah, surtout que oui, ça s'y serait bien prêté en plus, c'est un peu dommage.
Par contre, s'il y en a qui ont une PSP ou qui ont le courage d'émuler la PSP, il y a Dracula Chronicles X qui contient donc le remake de Rondo of Blood, et dans le jeu, tu as caché l'original de Rondo of Blood et Symphony of the Night de mémoire.
Putain, ça va, le bonus il est sympa.
Symphony of the Night est caché dedans, en tout cas, ça c'est sûr et
certain. Un petit truc caché.
Ouais. Un petit truc, un jeu de 20h, un petit truc caché. Non.
C'est ça, t'as un jeu dans le jeu. C'est comme jouer à Doom dans Doom.
C'est un peu ça. Comment dire. Oui, alors finalement, ça va rester la formule des Castlevania GBA.
GBA et même DS, même si DS, il y aura quelques twists sur
Portrait
DS.
Portrait of Rune, tu penses surtout?
Alors, Portrait of Rune, mais même... j'ai pas joué à Dawn of Sorrow, qui est le premier sur DS.
Alors, Dawn of Sorrow, ça ressemble énormément à Aria of Sorrow, hein, donc il n'y a pas de...
Ouais. Donc, du coup, je pense surtout aux derniers qui sont Portrait of Rune et Order of Ecclesia.
Order of Ecclesia, t'as pas vraiment la grande carte interconnectée, puisque t'as une espèce d'overworld qui est un menu, en fait. Hein,
alors, en fait, Portrait of Rune, c'est Mario 64, mais dans le monde de Castlevania, puisque tu vas te balader dans un château et devoir rentrer dans des tableaux pour avancer dans les niveaux.
Mais donc finalement,
le
dernier vrai Metroidvania dans la série Castlevania, c'est Aria of Sorrow. Parce que lui, c'est un seul. Dawn of Sorrow, oui, enfin, de souvenir, mais ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, il faudrait quand même que je le.
Order of Ecclesia, en fait, la première partie du jeu, et c'est des petits niveaux un petit peu à l'ancienne, et une fois que tu as fait les bonnes choses, tu accèdes au château de Dracula, qui lui, pour le coup, est un château en mode Metroidvania à l'ancienne. Hein.
Ouais, tout à fait. Non, mais il y avait un côté, il est pas petit, ça je confirme. Mais voilà, finalement, alors si ça vous intéresse d'ailleurs, on a un vieil article qui doit dater de 4-5 ans où j'avais refait tous les Castlevania GBA et j'avais fait une série d'articles qui s'appelait Les Archives de Cranky, qui consistait justement à ça, à refaire vraiment du rétro, mais une série complète pour voir. Et alors il y a Aria of Sorrow est vraiment très très bon de ce point de vue-là, c'est vraiment du Metroidvania pur et dur, ça reprend la la, comment dire, la formule de Symphony of the Night, mais alors à la lettre près, c'est vraiment super intéressant. L'intermédiaire dont je me souviens jamais le nom est pas terrible, et Circle of the Moon, qui était le tout premier sur GBA, et qui est d'ailleurs un des tout premiers jeux sur GBA, il est très bon dans le sens où ça reste un Metroidvania très accessible, mais il manque un petit peu de voilà, il est pas encore hyper peaufiné. Donc Circle of the Moon, recommandé, ça passe très bien, mais une fois que vous avez joué à Eye of Sorrow, c'est très compliqué à revenir avec. Et celui du milieu, je me souviens plus comment il s'appelle.
C'est pas Harmony of Dissonance.
C'est Harmony of Dissonance, ouais.
Alors et je l'ai fait celui-là.
Moins
et...
top, je trouve.
Et il est pas foufou. Alors en plus, moi j'avais fait les épisodes GBA après avoir fait ceux sur DS. Et alors le confort de ne pas avoir les cartes sur la carte sur un autre écran, c'est, ah, c'est insupportable.
Ça devient compliqué. Sur là, ça devient compliqué. Alors c'est vrai que Circle of the Moon était sur la première GBA et ça, ils mangeaient les yeux.
Bah, c'est pour ça que sortie, hein.
Tout à fait. Mais Harmony of Dissonance était horrible parce qu'en fait ils avaient détouré le personnage avec un truc super brillant parce que justement.
Ça a été l'exact opposé.
Voilà, la palette de couleurs était totalement cramée et juste ça en fait, ça, moi ça m'a gâché le jeu quoi. Donc je peux comprendre que ce soit compliqué. Finalement jusqu'à présent on a parlé que de jeux 2D, c'est rigolo parce que même Symphony of the Night est un jeu qui est purement 2D,
même s'il y a des éléments 3D dedans,
même s'il y a des éléments 3D, et finalement le passage à la 3D, il faudra attendre Metroid Prime en fait.
Le premier Metroid 3D, alors 2002 aux États-Unis, oui. Donc 8 ans après Super Metroid et approximativement 3 mois après Metroid Fusion. Était le Metroid. Il y a un gap de 8 ans dans l'histoire de Metroid, entre Super Metroid et Metroid Fusion. C'est important de le rappeler aussi, c'est pour ça que...
Oui, il y a un vrai suivi, parce qu'au début de Metroid Fusion, il y a écrit Metroid 4. Donc voilà. C'est vraiment...
Oui, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que pendant 8 ans, Nintendo n'a pas sorti de Metroid en tant que tel, et c'est pour ça que je pense aussi qu'un jeu comme Symphony of the Night, bon, au-delà de ses qualités hein, qui sont reconnues, a aussi pu autant être apprécié et mettre sa patte sur un genre, c'est que, ben, en fait... propriétaire du coin, le champion n'était pas dans le coin. Et Metroid Fusion, je rappelle, est un jeu très linéaire.
Oui, tout à fait. Et donc Metroid Prime, c'est on reprend finalement la formule Metroid. Donc maintenant, on parle de Metroidvania, même si là, techniquement, il n'y a pas vraiment... Enfin, le côté RPG n'est pas vraiment là.
Ouais, il n'est pas là, il est pas là du vrai. Tout, on dit zéro tout de suite.
Mecto qui nous dit Federation Force, on en parle ou c'est la future pause musicale? Je laisse la surprise. Je laisse la surprise. Mais voilà, Metroid Prime, en fait, c'est une espèce de galop d'essai pour voir si ça pourrait fonctionner en 3D, et ça fonctionne très bien en 3D, en fait, c'est-à-dire que l'interconnexion des zones est très cohérente. Voilà, le galop d'essai, il est plutôt bien réussi, même s'il y a quand même, curieusement, quelques grosses incohérences dans Metroid Prime. Quand on connaît bien le jeu, on se rend compte qu'il y a des choses un peu bizarres, par exemple, il n'y a pas de boss dans la caverne de Magmor, il y a la quête de la fin, où il faut aller ramasser les clés, qui est quand même un truc... débile quoi, un peu chiant.
C'est le remplissage classique
raté quoi.
Pour le boss manquant, Cred était prévu, mais finalement il a été abandonné sur le bord de la route pendant le développement.
Tout à fait. Il y a énormément de trucs qui ont été abandonnés pendant le développement. C'est pareil, on a fait la traduction d'un thread je sais plus quel forum américain très connu, NeoGAF, avant qu'il disparaisse. Je suis content d'avoir sauvegardé tout ça d'ailleurs. Il y a un monsieur qui avait fait un thread qui avait essayé de regrouper le plus possible d'éléments du développement de Metroid Prime et de bêta et autres. Et on a conservé tout ça, j'en suis hyper fier. On l'a traduit intégralement. Et il y a une quantité d'idées qui ont été jetées pour Metroid Prime qui est hallucinante.
Et d'ailleurs, c'est un autre point sur Metroid Prime qu'on n'aborde pas, on n'a pas abordé. Bon, c'est connu, hein, je pense que les gens qui nous écoutent le savent. C'est que c'est un jeu qui a non pas été réalisé par Nintendo SPD, donc Software Planning Development, je crois,
oui.
Qui est le studio de Gunpei Yokoi à la base. Et donc Metroid Fusion l'a été, mais Metroid Prime a été confié à Retro Studio, donc qui est un studio que Nintendo avait acheté. C'est des Texans. Et je pense que c'est pas un hasard si c'est des Texans qu'on fait Metroid en 3D, c'est parce que en fait Metroid aussi est un jeu, une série qui marche beaucoup mieux aux États-Unis qu'au Japon. Je pense que c'est intéressant de le rappeler aussi, c'est que ce genre de jeu est un jeu très prisé des Occidentaux, on comprendra beaucoup plus par la suite. Mais je trouve que c'est intéressant de se dire voilà, c'est des Ricains qu'on fait le jeu, et je pense qu'effectivement le côté, il y a beaucoup de choses qui étaient mises de côté. Il y a aussi du fait que c'est pas un studio interne à Nintendo, c'est des externes, et ils ont eu un suivi qui était beaucoup plus drastique. Je crois que c'est assez connu d'ailleurs le fait que il y a une légende qui dit que Miyamoto a débarqué une fois, il leur a montré 5 projets, il a fait les 5, c'est de la merde.
Non, c'est ça, non mais c'est un vrai truc, hein. Les anciens de rétro le disent, hein, c'est. Ils avaient un jeu de football américain qui s'appelait je sais plus comment. Ils avaient Ravenblade, le fameux. Oui. Ils avaient un jeu qui s'appelait
Star Fox Zero.
Non mais non, Racing, juste ils avaient genre football, racing, je sais pas quoi, enfin ils avaient genre 5 ou 6 projets en parallèle, et Miyamoto a débarqué, il a dit vous me foutez tout ça à la poubelle, vous travaillez là-dessus. Vous focalisez sur un truc. En fait, les mecs se sont pas focalisés. Ils ont fait n'importe quoi, et puis ensuite, ils ont été obligés de faire plein de coupes pour arriver à sortir le jeu.
Sachant que c'est un jeu que je crois qu'il devait sortir sur 64 à la base.
Ça, je suis pas certain.
En tout cas,
ouais, j'ai entendu, enfin, qu'il y avait des tests qui ont été faits sur le 64 pour du Metroid, mais c'est que Nintendo a dit non, ça va pas marcher.
Ouais, peut-être aussi parce que c'était tellement labour, ils leur ont dit bon, moi je vais être sans salle, les gars, vous prenez pas la tête.
C'est possible. Donc, le Metroidvania continue à exister en 3D, et donc, bon, Metroid Prime 2, Metroid Prime 3, mais si Metroid Prime 3 est peut-être très tardif, a peut-être moins marqué les esprits.
Mais d'ailleurs, on parlait justement d'absence de hub ou de monde interconnecté. Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3, ils ont respectivement un hub et des mondes pas connectés.
Alors, Metroid Prime 2, c'est ouais, Metroid Prime 2, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est
le
vrai.
Le 2, je me souviens plus trop.
Le
ça
2,
fait 30 ans que j'ai pas joué.
T'as un gros hub central qui est les terres du temple.
Ah oui,
et
c'est vrai.
À chaque fois, tu dois revenir après.
Oui, pour aller
poser. Il t'envoie dans une
zone
où tu fais quasiment tout dedans. Et après, une fois que t'as battu le gros boss de la zone et que t'as accompli l'objectif qui était de récupérer la lumière, tu reviens dans le hub central, tu déposes la lumière et t'es dit maintenant faut que tu ailles là.
C'est vrai que Metroid Prime 2, il était quand même. Alors le 1, je dis pas qu'il était pas linéaire, hein, parce que le 1 a quand même tendance à te faire item. Finalement, c'est presque une structure Donjons et Dragons, soit des monstres clé-porte.
Ah, le 1 en plus a un gros système d'indices aussi. Ça c'est quelque chose qui est important à rappeler, c'est qu'à partir de Metroid Prime. Alors. C'est déjà le cas en fusion,
mais de fusion.
Mais dans Prime aussi, ça y est, t'as un système d'indices qui te dit exactement dans quelle salle se trouve ton prochain objectif. Alors sans te dire, tu trouveras ça là.
Non, et puis surtout,
il y a des tremblements de terre.
Des fois, ils te disent, il y a une activité sismique suspecte là. Mais c'est pas parce que c'est la salle d'à côté que tu vas passer par le truc d'à côté. Il y a des fois, t'es quand même obligé de faire un très grand détour. Il y a 2-3 moments où le jeu te lâche un peu la main, malgré tout. Mais je pense pas que tu aies le choix. Enfin, dans Metroid Prime, il me semble pas de mémoire que tu aies le choix dans l'ordre dans lequel tu veux tacler le jeu.
Bah si, non, c'est linéaire. Mais c'est pour le
c'est
coup, il y a pas de séquence breaking à part celle dont on a parlé au début
tout
avec le jump, le double jump, qui est un glitch.
Mais il y a effectivement un jeu très linéaire. Le 2 reprend un jeu très linéaire, mais c'est vrai que je me rappelais pas qu'effectivement c'est un jeu beaucoup plus hub. C'est-à-dire que t'es obligé de revenir au point central, mais t'as quand même des zones interconnectées. C'est-à-dire que t'as quand même des morceaux où voilà, tu peux. C'est pas purement un hub façon Turok.
Bah,
où effectivement, tu reviens sur un vrai hub central dans lequel tu vas aller dans le niveau 2, et puis une fois que t'as fini, tu reviens au hub central, puis tu vas dans le niveau 3 et ainsi de suite.
C'est ça.
T'as quand même les zones qui sont interconnectées un peu entre elles, mais c'est vrai que la structure du jeu, elle, est plus on va dire centralisé, je sais pas comment
dire. Si j'ai bien compris, dans le jeu, tu n'as que les monts de Fandrana qui sont connectés à une seule zone. Plus c'est le cas des mines de Fanzon. Mais Fandrana, tu peux y accéder que par Magmoire, par exemple.
Oui, c'est pas impossible ça. Si on parle bien du 1.
Oui, du 1.
Mais t'as d'autres raccourcis à la con, hein, parce que quand tu vas en haut du puits sur la surface de Talon 4, tu peux atterrir je sais pas où. Non, il y en a d'autres. Hein.
Ouais, il y a des raccourcis, mais Frandana, je crois qu'il y a vraiment qu'un seul chemin, c'est par Magmoire.
C'est pas impossible. De toute façon, c'est un cul-de-sac. Hein, ça reste.
Oui.
Il y a un moment où t'as quelques trucs qui restent des cul-de-sac, de toute façon. Voilà. On va marquer une deuxième pause musicale. On va marquer une deuxième pause musicale et on va s'écouter un petit morceau. Alors, d'une bande originale d'un jeu que, voilà, compliqué.
Metroid Fédération Force.
Non, on va quand même essayer de se respecter un petit peu. Alors, j'ai pas trouvé l'OST de Metroid Fédération Force, c'est surtout pour ça.
Je pense que tout le monde essaie de l'enterrer, en particulier Nintendo.
Ouais, j'ai l'impression qu'ils essaient de l'oublier. Donc, on va écouter un petit morceau de la bande originale de Hollow Knight. Qui donc est un Metroidvania, dont on parlera un petit peu après, on va essayer de finir cette émission, sur, on va dire, le « et maintenant », c'est-à-dire bah, qu'est-ce qui reste finalement du Metroidvania, comment ça renaît dans les temps, comment c'est revenu dans les temps modernes et dans l'actualité. Et donc voilà, le morceau s'appelle « Green Pass », c'est, alors je sais pas comment ça s'appelle en français.
Le chemin vert.
Le chemin vert.
Vert champ, je sais plus.
C'est pas la voie verte.
C'est ouais, peut-être
la voix verdoyante, un truc comme ça.
Alors en fait, moi j'ai twitché un petit peu du jeu, et là à ce moment-là je mettais la console en français, mais sinon je l'ai fait en anglais, c'est un peu plus compliqué pour moi. Bref, Ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes, on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc on va finir sur le « et maintenant ». C'est-à-dire que bah, le Metroidvania, c'est un peu devenu le fer de lance, notamment des indés. Alors pas que, mais on en retrouve énormément.
Ah, beaucoup, beaucoup, oui.
Bah, beaucoup, beaucoup.
Le patient zéro du jeu indé qui est Cave Story est très inspiré du Metroidvania, hein, quand tu regardes bien.
Alors c'est vrai, moi je... En termes de timing, parce que Cave Story, c'est un vieux jeu, en fait.
2004.
Voilà, donc il est...
En fait, il est plus vieux que Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3.
C'est quand même assez ouf, d'ailleurs. Enfin, quand tu regardes le...
Alors, c'est un jeu, un des sorties gratuitement, les versions payantes datent plutôt de 2009-2010.
Fait par un seul mec, sur son temps libre.
Pixel.
Bref. Mais on disait grande traversée du désert, c'est-à-dire qu'effectivement, après Symphony of the Night, après les épisodes GBA, donc oui, il y a eu les épisodes DS, mais qui sont quand même restés un petit peu plus confidentiels. C'est-à-dire que tu le vois simplement au fait que si t'essayes de racheter un Castlevania sur GBA, il coûte pas si cher que ça. Si t'essayes de racheter un Castlevania sur DS, il douille un peu. Hein, donc,
tu peux le voir aussi sur les jaquettes, les artworks. Ils ont pris un illustrateur qui faisait des trucs assez fouillés, et puis les deux premiers sur DS, c'est un peu le gars random qui fait des dessins à façon anime, quoi.
C'est un peu ça. Enfin, les jeux sont un peu plus confidentiels. Alors, je sais pas ce que ça donne en termes de vente, parce que il y a peut-être ça s'est peut-être très bien vendu, hein, parce que la DS a eu un succès énorme, donc c'est vrai que tu sortais... Enfin, je sais plus, il y avait un éditeur qui disait, de toute façon, on pourrait sortir un jeu sur DS où il y aurait juste l'écran titre, il se vendrait quand même.
Metroid 4 ?
Stop. Oui, putain, c'est pas possible. Bref, donc voilà, mais donc il y a effectivement deux déclics. Il y a Cave Story, effectivement, côté indé. Je maintiens qu'il y a quand même un peu de Dark Souls, qui reprend au moins la structure de la carte et le côté RPG.
Mais ouais, mais c'est pas ce que les gens ont retenu de Dark Souls, malheureusement d'ailleurs.
Bah, c'est un peu dommage parce que c'est peut-être le seul truc intéressant à retenir de Dark Souls.
Tout le monde a retenu les combats super durs et compagnie, hein, c'est un fait, hein, ça existe. Mais il y a aussi, dans le premier Dark Souls, est aussi réputé pour, comme tu le dis, son aspect labyrinthique. Et sa carte est trop coupée. D'ailleurs, alors moi j'ai fait que le 3, et le 3 est beaucoup plus linéaire à base de petites zones, et tu vas rarement revenir en arrière pour trouver ton chemin.
Alors que le 1, effectivement, un des moments. Ah oui, Mirrors of Fate, c'est tout pourri, oui, je confirme.
Non, c'est Castlevania Lord of Shadow, Mirrors of Fate.
Voilà.
HD Remaster.
HD Remaster, Dark Knight.
Il existe celui-là aussi.
Shadow, voilà. Bref, Shadow of the Beast, les Chevaliers de la Lumière et le truc S Edition Ultimate, bref.
With Knuckle.
Stop. 32X, voilà, mais on l'a fait, c'est bon, on a été jusqu'au bout. Non mais, enfin, le...
Tu avais parlé de l'ascenseur de Dark Souls, je pense.
C'est exactement ça, oui, le moment où, en fait, dans Dark Souls, tu explores finalement la première zone du jeu, puis tu reprends une espèce d'ascenseur, et tu t'y attends pas du tout, mais tu retournes dans le Fire Shrine, c'est-à-dire le premier...
La zone de bas de départ.
La zone de départ, enfin, pas de départ, pas la zone d'intro, mais la zone juste après du jeu. Et c'est vrai que ce moment est assez... assez fou parce que tu te rends compte que tout le chemin que t'as fait, qui finalement ne contient pas de zone de chargement, qui est d'un seul bloc, et ben en fait oui, il boucle sur lui-même. Et il y a plein d'endroits comme ça dans Dark Souls qui bouclent sur eux-mêmes. Et c'est pour moi l'aspect le plus intéressant du jeu, c'est celui-là, c'est cette carte. Parce que bah déjà on te file pas de cartes, donc c'est de la merde, parce que un jeu où il y a pas de cartes, bah c'est de la merde. Mais t'as quand même un endroit à explorer qui est très très interconnecté, et tu finis, dès que t'as fait ce premier ascenseur, tu cherches énormément les interconnexions entre les différentes zones. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-unes.
Mmh. Sachant que même dans les épisodes d'après de Dark Souls, là je parlais du 3, on a cette logique de raccourci d'interconnexion, mais au sein même d'une zone. Par contre, passer d'une zone à l'autre, c'est beaucoup plus linéaire. Même si c'est pas aussi visible que je prends dans l'ascenseur dans Metroid.
Oui, non, mais c'est ça. Il y a une porte qui est bloquée, puis en fait, tu peux la décoincer de l'autre côté, un peu comme dans un Resident Evil où t'as beaucoup de portes en fait qui sont à sens unique.
Et d'ailleurs,
un verrou que tu peux débloquer.
D'ailleurs, pour avoir fait le remake du 2, là, j'ai trouvé qu'il y a, dans le commissariat notamment, en particulier dans le commissariat d'ailleurs, il y a un côté un petit peu Metroidvania, même si on gagne pas de. On gagne pas de nouvelles compétences entre guillemets pour avancer. Il y a tout un côté limbiratique à prévoir son chemin, par où est-ce que je passe pour traverser, récupérer les objets et compagnie. Je trouvais ça assez intéressant.
Oui, il y a du route planning. Et effectivement, le Metroidvania, c'est aussi du route planning. Alors, dans Resident Evil 2, t'as moins ce côté backtrack, même s'il y a un peu, mais effectivement, une fois que t'as fini le commissariat, tu y reviens plus, à ma connaissance.
Non, et de toute façon,
t'as quand même des trucs à sens unique, voilà. Puis après, t'as effectivement la fin de l'histoire qui est plus. Mais c'est vrai que le commissariat est une zone qui reprend des éléments de ce type-là, avec des portes que tu peux franchir que dans un seul sens. Avec.
Qui nécessite une clé particulière.
Ou qui nécessite une clé particulière. Et une fois que t'as trouvé la clé, finalement, ça va t'ouvrir un peu plus la carte. Mais il va falloir aller un peu partout pour le retrouver. Donc oui, le commissariat est une espèce de proto-Metroidvania, finalement. Et ça, c'est une très bonne image. Effectivement. Mais bref, pour revenir sur le sujet, je pense que tu disais donc dans la relance indé, donc Shadow Complex.
Alors oui, qui est un jeu Xbox Live Arcade, qui à mon avis est clairement la carbone copie la plus proche que j'ai vu d'un Metroid, dans le sens où ils trouvent toujours le moyen de mettre les mêmes power-ups, c'est-à-dire que t'as même le speed booster, c'est genre vraiment le truc le plus Metroid possible, je trouve, avec l'attaque vrille, qui n'est pas dedans, pour le coup. Voilà, t'as une variante du rayon de glace qui est en fait des espèces de. C'est une espèce de truc en caoutchouc qui grossissent pour geler les ennemis. Enfin, il y a vraiment un côté presque copie carbone en termes de mécanique et de power-up. Bon, avec une DA beaucoup moins travaillée parce qu'en fait, t'es un mec qui va sauver sa gonzesse dans un complexe souterrain. Avec vraiment héros de film d'action des années 2000. Hein. Pas à chercher beaucoup plus loin. Mais c'est vraiment le moment où d'autres personnes que Nintendo et Konami ont décidé de faire des Metroid, et vraiment dans ce cas-là un truc proche de Super Metroid.
Et depuis, c'est un peu l'explosion, c'est-à-dire qu'on a... Alors depuis, il a fallu quand même passer quelques années, hein. Mais on a eu... Alors je sais pas quel est le premier entre tous ceux qu'on s'est mis de côté en préparant l'émission, il y a effectivement Cave Story, mais qui est vraiment un ancêtre. Shadow Complex, c'est venu un petit peu après. Mais je pense à Axiom Verge, créé par une seule personne, qui lui est un hommage, enfin vraiment un hommage très clair à Metroid, qui n'a pas vraiment le côté Vania, dans le sens où il y a peu de côté RPG, t'en as un tout petit peu, mais c'est vraiment très très limité. Alors moi personnellement, j'ai pas du tout aimé Axiom Verge, donc peut-être que je reviendrai un petit peu pour expliquer pourquoi, mais voilà. Et ensuite, t'as les Hollow Knight, les Iconoclast, les Yoku's Island Express, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, le Metroidvania Pinball.
Le Metroidvania Pinball avec un bougier.
T'as Guacamelee aussi.
Ah, je savais pas que c'était
vrai. Qui pousse l'hommage tellement loin que tu récupères les power-ups dans les statues de Chozo. Je peux dire que la première fois c'était drôle, au bout de la dixième j'en pouvais plus.
Un Guacamelee aussi, ça date un peu d'ailleurs, il me semble.
Bah, il y a la première version.
Ouais, mais la première version, enfin le premier épisode, il est un peu. J'en ai-tu parlé il y a longtemps. Bref, c'est pas très grave.
Dans
le compil du 1 et du 2 qui sort en physique bientôt.
Cool.
Tout à fait.
Très cool. Dans le genre un peu plus un peu différent avec des variantes de Metroidvania, je crois que Tokitori 2 a une structure un petit peu comme ça. Tokitori à la base c'est un jeu d'énigmes avec un poulet qui doit atteindre des œufs, et apparemment dans le second épisode c'est pas des tableaux comme avec de niveaux individuels, c'est vraiment un monde connecté du début à la fin.
C'est exactement ça.
J'ai découvert ça.
Du coup c'est le jeu qui casse notre règle des Indies. Donc cette règle c'est quand tu regardes la vidéo, une présentation d'un jeu indé, si tu comprends pas le gameplay et qu'il y a pas d'énigmes, Metroidvania.
Oui, voilà, c'est soit s'il y a des énigmes, c'est un Zelda-like, soit il n'y a pas d'énigmes, mais c'est un Metroidvania.
Ça peut être aussi un jeu poétique.
Oui. Ça peut être aussi un... Oui, alors en général, quand ça ressemble à une pub pour du café ou du parfum, c'est que c'est un jeu poétique. C'est triste, hein, mais il y a vraiment des trucs où ça ressemble à ça. Hein.
Tiens, Ori, dans la liste, dans la date de quand?
Oui, Ori and the Blind Forest, il est pas si récent que ça. Le premier, en tout cas. Le deuxième, je sais pas, mais... Ouais. Je sais pas si... Donc, on va peut-être revenir sur quelques-uns un petit peu plus précisément, parce qu'on en a tous fait, du coup, récemment ou moins récemment. Enfin, on va dire dans les dernières années. Mecton et moi-même avons fait Yoku's Island Express. Tu me dis si je dis des bêtises. Donc, effectivement, c'est un pinball Metroidvania. Qui est assez barré d'ailleurs, qui a son petit sens de l'humour, qui est très joli, qui se complète en 4-5 heures, et qui passe assez bien.
C'est très frais.
Ça se passe sur une île tropicale, et donc on est effectivement un bousier, et on se retrouve chargé par le directeur de la poste, qui est, je crois, malade, de distribuer le courrier, et en fait, quand on essaie de distribuer le courrier, arrête le chat. Putain, c'est pas possible. Et en fait, quand on distribue le courrier, on se retrouve donc à sauver l'île d'un grand méchant et en faisant des tables de pinball au milieu qui sont super bien amenées à chaque fois parce qu'on s'y attend jamais. Enfin, moi j'ai vraiment bien kiffé, c'est une petite surprise sympathique, un jeu frais.
Frais, et avec une BO qui défonce.
Voilà, donc ça coûte en général pas très cher sur l'eShop. Il y a une version boîte qui est sortie qui a un prix raisonnable aussi, ça doit compter une petite vingtaine d'euros pour 5-6 heures de jeu.
Il me semble.
Donc c'est pas le meilleur rapport qualité-prix du monde, je pense que Galaxies vous dira le meilleur rapport c'est 1€ de l'heure, donc là oui il est... Mais il est régulièrement en promo, donc...
Le meilleur rapport, ouais, Vice.
Oh, pas mal.
Pas mal, bien joué. Antix, est-ce que tu veux nous glisser un petit mot sur Iconoclast, puisque tu as...
Alors Iconoclast, pour le coup, c'est un jeu qui a été réalisé par une seule personne, en une chouette 2D pixel art, plutôt travaillé dans un univers un petit peu SF dystopique, donc il y a une partie du scénario qui est assez présente, mine de rien, plutôt intéressante. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment dans la veine de Cave Story, avec déjà forcément l'univers en 2D, le côté SF, il y a un scénario qui est un petit peu complexe derrière et compagnie, mais à côté on a un chouette jeu de plateforme avec des mécaniques intéressantes. En fait on a une héroïne qui se bat avec une clé à molette, qui est mécanicienne, et ça fera partie en fait des interactions du décor, de faire tourner des rouages pour pouvoir progresser dans le jeu. Donc il y a beaucoup d'énigmes à base de ça dans ce petit jeu, et ça se fait en 10-12 heures je crois. Le 100% n'est pas très compliqué à voir, il y a quelques quêtes cachées, des boss cachés, donc ça c'est plutôt chouette pour la partie jeu. Et on retrouve une espèce de système de charme, alors pas aussi poussé que dans Hollow Knight, mais ça existe, et c'est plutôt bien fait.
Avant d'aborder Hollow Knight qui va nous occuper pour la fin de l'émission, il en est à sa 15e saison aussi, le chat, oui, il en est aussi à sa 15e saison, le chat il commence à fatiguer. Mais voilà, avant d'aborder Hollow Knight, sur lequel j'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail, parce que c'est vraiment, ça a été un de ceux qui a été le plus encensé, et pour de bonnes raisons dans certains cas, pour de mauvaises dans d'autres, on va dire. On n'était pas tout à fait d'accord sur le sujet il y a deux semaines, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission d'ailleurs. C'est pour reparler un petit peu de ces jeux dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, ouais, dans ce genre dont on n'a pas forcément beaucoup parlé.
Parce qu'en off, on a fait une demi-heure de débat après l'émission.
Voilà, donc on s'est dit, il y a peut-être moyen d'arriver à synthétiser le truc en quelques minutes en direct, en fait, ce serait peut-être plus intéressant. Axiom Verge, alors moi j'ai pas... Alors c'est un Metroidvania, ça il n'y a pas de doute, c'est vraiment un hommage à Metroid qui se passe dans une espèce de monde... c'est pas vraiment cyberpunk, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un monde virtuel, donc ça se passe dans un ordinateur qui est infecté par une espèce d'entité, une espèce d'entité galactique, une entité fantomatique, une entité dimensionnelle, enfin on sait pas vraiment. L'histoire est pas très compréhensible, hein, faut quand même. Enfin, tu peux. C'est suffisamment obscur pour que tu puisses y voir à peu près ce que tu veux. Et donc l'idée, c'est comme dans un Metroid, on va explorer ce monde, et il est très interconnecté, et donc effectivement, on va aller d'une zone à l'autre, et essayer de se débrouiller pour voyager entre les zones, récupérer à la fois des armes et des capacités pour essayer d'avancer. Et il y a vraiment de clairs hommages à Metroid par moment, notamment dans certaines zones où on a vraiment l'impression d'être dans des grottes de Super Metroid, enfin c'est vraiment très très inspiré de ce point de vue-là. Là où personnellement j'ai eu beaucoup de mal, c'est que dans le jeu doit y avoir une douzaine d'armes, et en fait, il y en a trois qui sont utiles, quoi.
Ah, ok.
Et ça, ça m'a cassé les couilles. C'est-à-dire qu'en fait, tu ramasses une arme, t'as une salle du boss qui est genre 3 pièces plus loin, et tu te dis, bah, l'arme, elle doit servir pour ce boss-là, soyons logiques. Et en fait, pas du tout. Les boss, tu les tues tous avec la même arme de base, et c'est juste un pattern à la con à apprendre, et puis c'est tout, quoi. Et du coup, il y a pas grand-chose d'intéressant qui est fait avec les armes. Il y a des choses plus intéressantes faites avec les items, notamment, il y a un item qui permet d'aller glitcher, en fait, le jeu lui-même. C'est assez rigolo parce que ça veut dire qu'il y a des créatures inoffensives, en fait, quand tu les passes à ce truc-là, elles deviennent agressives. Et il y a au contraire des créatures agressives, quand tu les passes sur ce truc-là, bah, ça devient carrément des plateformes où elles font de nouveau partie du décor, c'est-à-dire qu'elles retournent dans le décor, enfin c'est très bizarre. Voilà, il y en a qui ont bien aimé, Axiom Verge, c'est pareil, il y a eu des critiques dithyrambiques dessus. Moi honnêtement, je me suis pas fait chier, je suis arrivé quand même au bout. Mais le simple fait que les armes soient en profusion alors qu'elles servent quasiment à rien, ça m'a vraiment vite cassé les couilles. Et voilà, il y a quelques idées de gameplay intéressantes. Par exemple, il y a le drone, qui est assez rigolo. En fait, à un moment, t'as un pistolet à drone. C'est-à-dire que tu vas lâcher une espèce de petite araignée qui peut se balader dans des couloirs et puis qui peut grimper des murs et qui peut sauter et tout ça, qui a sa propre petite barre de vie. Ça, c'est hyper marrant comme idée. Mais voilà, à part ça, moi, Axiom Verge, je peux vraiment difficilement le recommander. Bon, voilà, c'était pas mon trip. J'ai réussi à le finir, j'étais content de l'avoir fini. Je l'ai revendu derrière parce que, voilà. Pas grand chose à en tirer. Enfin, à mon sens en tout cas.
À part 20 balles.
À part 20 balles. Mais enfin, j'étais content de l'avoir fini, je le referai pas. Il y a vraiment des. Je trouvais ça un peu. Voilà.
Non, Metroidvania, là auquel je viens de penser, parce que j'ai totalement zappé, il y a les deux épisodes de SteamWorld Dig, alors plus le second que le premier. Parce qu'ils comprennent tous assez intéressant, parce qu'on va jouer un personnage en fait, qui va s'enfoncer dans des galeries en creusant. Et il y a le même système de progression à base de je récupère des items dans une espèce de zone un peu spécifique pour récupérer les items. Mais c'est plutôt chouette. Et le 2 sur Switch est vraiment très bien. J'ai passé un très bon moment dessus.
Je confirme, c'est pareil, SteamWorld Dig en plus c'est 5-6 heures pour le finir.
Ouais, c'est ça, c'est pareil.
Avec plein de mécaniques sympas, récupérer des pouvoirs qui te permettent de faire exploser des pierres plus vite, creuser plus vite, machin, c'est vachement rigolo. J'ai vraiment bien aimé, moi. Donc effectivement, Metroidvania léger, mais quand même. Et on va finir par Hollow Knight, parce que...
Attends, juste, j'en place un, je vois Tardy dans le chat. All Boy, le seul jeu dont vous avez un unboxing de la version dématérialisée sur le dojo.
C'est vrai. C'est vrai, il y a eu un unboxing. All Boy, je crois qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, notamment Tardy.
Alors pour le coup, il est assez le fait qu'il ait été fait par une seule personne sur X années, c'est assez bluffant. Après, bah, c'est un Metroid-like tout à fait classique et je pense, toi c'est ce qu'on disait sur les brouettes de Metroid-like qu'on se tape en indé. Je pense qu'il a été un des premiers avec lesquels on a commencé à saturer du genre, peut-être.
Voilà, en parlant de saturation, on va peut-être passer à Hollow Knight.
Et à le jeu de la Discord.
Le jeu de la Discord. Alors oui et non, en fait, pas tout à fait le jeu de la Discord. Le jeu de la, c'est quand même discutable.
Oui, Allboy, il est magnifique, je suis d'accord avec le chat.
Tout à fait, oui, effectivement, il est très très joli. Donc Hollow Knight, c'est par la Team Cherry, c'est fait par une toute petite équipe, sur quoi, 4-5 personnes, je crois.
Je crois qu'ils sont deux à la tête du projet, et oui, effectivement, ils n'ont pas énormément grossi, c'est Australien.
Ces Australiens, là où ils ont fait un travail assez remarquable, donc Hollow Knight, Metroidvania, alors lui, parfaitement assumé, dans lequel, effectivement, on va récupérer... Il y a des éléments de type Metroid, c'est effectivement, finalement, monstre clé-porte, hein, récupérer un item qui va permettre d'ouvrir de plus en plus la carte. Mais il y a aussi un système un peu RPG, puisqu'il y a des charmes qu'on peut équiper, qui vont modifier les capacités du personnage. Donc il y a une question de choix. Et c'est assez souvent en fait qu'on se retrouve avec. Enfin moi personnellement j'avais un set de charme exploration pour me repérer plus facilement sur la carte, que les petites pièces que quand on tue les ennemis en fait ils lâchent des pièces, ben, j'ai des petits moucherons qui les ramassaient automatiquement pour moi. Et puis t'as genre un set pour battre des boss plutôt défensif, un set plutôt offensif, enfin voilà, les charmes ça permet vraiment de modifier ta façon de jouer, ça c'est plutôt cool et plutôt bien foutu. Mais donc l'idée de Hollow Knight en fait, c'est que au début t'es très pris par la main, parce que tout premier niveau et tout ça, on te dit, enfin les premiers items t'ouvrent vraiment des morceaux de cartes très restreints. Puis à partir d'un certain item dans le jeu, je crois que c'est la griffe de la mante. Alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est le Mantis Claw en anglais, mais je sais pas comment il s'appelle en français. Mais ça doit être ça, enfin à partir du moment où tu peux en gros t'agripper sur les murs et donc commencer à faire des sauts d'un mur à l'autre, finalement. Le jeu te lâche complètement et te dit, bah vas-y, démerde-toi. Et moi, c'est là où j'ai commencé à avoir plus de mal, parce que...
Ça fait peur.
Alors déjà, je trouve que le monde n'est pas particulièrement attirant, parce qu'il est très glauque, il est très lugubre.
C'est un univers... Il y a un côté un peu Tim Burton dans l'inspiration design, mais c'est surtout un univers avec que des insectes. Et c'est vraiment très travaillé là-dessus. Il y a un bousier.
Oui. Il est pas très agréable, le bousier. Hein,
Non, mais je disais, ça fait peur dans le sens où... C'est la particularité du jeu, j'en parle tout de suite, c'est que c'est pas la Dark Souls, mais en gros, si tu claques, tu perds... La mort est punitive, quoi. Très punitive.
Mais et en plus, je trouve que c'est... Enfin, je suis désolé, je vais peut-être passer pour le mec qui fait que des reproches à Hollow Knight, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs très mal branlés. Je vais commencer par les... Enfin, est-ce qu'Antic, tu veux parler des trucs bien faits, histoire que je...
Ah bah, il y en a plein.
Hein, on alterne. Non, il y a vraiment plein de trucs bien faits. Hein,
pour le coup, je vais rester neutre, je ne l'ai pas terminé.
Pour moi, c'est le meilleur Super Metroid depuis Super Metroid. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que je suis pas du tout... Je suis très partisan pour dire que c'est un très bon jeu dans The Knights. Hein. Bon, déjà, on a parlé de l'univers, moi, que je trouve vraiment très bien fait. Au point que la zone des araignées a été vraiment très désagréable à parcourir. Je pense que c'était volontaire. Et comme tu disais, il y a les charmes. Moi, je trouve que c'est vraiment une super idée, les charmes.
Ça, je suis d'accord. C'est original parce que ça te permet d'adapter. Tu peux adapter ta façon de jouer finalement au monde qui est autour de toi, ou au contraire, c'est le monde qui va s'adapter. Ça dépend de ce que tu prends. Surtout que tu as des charmes très divers. Tu as des trucs qui te permettent d'aller plus vite, de recharger plus vite ton dash. Enfin, voilà, c'est vraiment.
Il y a un truc qui était très malin dans les charmes, c'est que par exemple, le système de cartes de boussole, je sais que tu n'as pas aimé. Mais par exemple, la boussole, pour savoir où tu te trouves sur la carte, c'est un charme. Donc, de base, tu ne l'as pas. Mais si tu veux l'avoir, bah, faut utiliser un slot de charme. Je trouve que c'est des choix qui sont intéressants.
Alors, c'est un choix intéressant. Moi, un des reproches que j'ai essentiellement deux reproches à faire qui fait que j'avais du mal à considérer que c'était le jeu de l'année, quoi. C'est un très bon jeu, hein, j'ai pas de soucis, je suis arrivé au bout, j'étais très satisfait, très content d'arriver au bout. Mais y a quand même un moment où j'ai fini par saturer, en fait. Je trouve que le jeu est presque trop long, non, en fait, dans son déroulement. La première chose que j'ai à lui reprocher, moi, c'est que contrairement à n'importe quel autre Metroidvania, t'es obligé d'aller choper ce connard de cornifère pour acheter la carte de l'endroit où tu es, pour pouvoir commencer à la dessiner. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, c'est scélérat, et je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Dans n'importe quel Metroidvania, en fait, enfin, dans Super Metroid, par exemple, quand tu explores une zone que tu ne connais pas, tu commences quand même à tracer la carte. Voilà. Donc tu vas dans le menu pause, tu as la carte, et puis au bout d'un moment tu finis dans Super Metroid souvent par trouver la salle des cartes qui va te donner une espèce de canevas très 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 grosse maille de la carte où il y a évidemment pas tout, t'as plein de zones qui ne sont pas montrées, t'as des zones secrètes et tout ça, mais tu commences à tracer la carte quand tu rentres dans la zone, pas quand tu trouves le terminal de carte. Et je trouve que le fait de te forcer à trouver Cornifère, ça fait qu'il y a tout un tas d'endroits en fait où t'as pas de carte. Et moi j'ai trouvé ça très chiant, il y a un moment où je me suis retrouvé je sais plus comment ça s'appelait cette zone, je crois que c'est le Royal Waterway, donc ça doit être les voies d'eau royales, ou les égouts royaux, je sais pas, en français, je sais plus comment ça s'appelle, faudrait que je... Et en fait, j'ai exploré cette carte pendant un bon moment en plus, hein, et j'arrivais pas à trouver cet enfoiré de cornifère. Et du coup, bah, j'ai fait tout ça pour rien, c'est-à-dire que j'ai tourné en rond dans ce truc-là sans trouver, je me suis retrouvé coincé parce qu'en fait, il me fallait je sais pas quel pouvoir pour passer un endroit, et j'ai fini par laisser tomber, et j'ai strictement rien gagné. Et je veux dire, à part de la frustration, j'ai rien gagné. Et c'est le genre de truc qui me fait dire que le monde était peut-être un peu trop ouvert, et que j'aurais préféré personnellement être un poil plus guidé.
Alors, moi justement, pour les cartes, il me semble que la carte de Cornifère t'indique le chemin important vers ton objectif dans la zone, mais que tu peux... Tu dessines la carte quand même. Le truc, c'est que mettre à jour la carte dans Hollow Knight, c'est arriver, s'asseoir sur un banc et donc sauvegarder.
Mais ça, je trouve pas ça gênant. Ce qui me gêne, c'est tu explores une zone, par exemple le Green Pass dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est l'espèce de zone. Non, t'as le fungus. Je sais plus comment ça s'appelle, la zone des champis. Où en fait tu la traverses pendant un moment dans le jeu, mais tu ne peux jamais la cartographier. Parce qu'en fait, Cornifère, il est planqué derrière un mur que tu peux franchir quand t'as un certain pouvoir,
Je vois de quoi tu parles, oui.
Donc c'est pas gênant parce que c'est une toute petite zone, mais il y a des zones beaucoup plus grandes, je pense au Royal Waterway, justement, où, enfin, Cornifère, il est vraiment à un bout, ou le Deep Nest, hein, le Deep Nest, moi, j'y suis... Je suis rentré...
Le Deep Nest.
Oui, voilà. Ben moi, je suis rentré dans le Deep Nest par le côté gauche, donc le côté ouest. Et donc, je me suis fait chier à faire tout un parcours à l'intérieur sans avoir de carte, et à chaque fois à crever, à retourner au banc et à galérer en me disant « Bon, ok, faut que j'y retourne comme ça, machin, tout ça. » Et c'est juste chiant. Et en fait, j'ai découvert, donc j'ai été regarder, du coup, j'ai été regarder une soluce parce que j'en pouvais plus, ça commençait vraiment à me casser les couilles. Et en fait, j'ai découvert que Cornifère, tu ne pouvais pas l'avoir. Enfin, tu ne pouvais l'avoir. Je me suis rendu compte que tu pouvais pas l'avoir si tu passais pas par le chemin, l'entrée en fait est au lieu de l'entrée ouest. Et c'est juste, enfin, c'est le genre de truc que je trouve hyper casse-couille, quoi. Donc moi, la façon dont j'avais abordé le jeu, je ne pouvais pas arriver à le trouver. Impossible d'arriver à trouver la fin du niveau, ou l'item caché ou tout ça, c'est même pas la peine.
Ce qui est un peu dommage du coup, parce que c'est quand même un jeu, en tout cas moi aussi. Sa plus grande qualité pour moi, c'est à partir du moment où tu as atteint la cité des pleurs, donc qui est un petit peu la zone centrale du jeu. Tu es libre en fait d'aller un petit peu où ce que tu veux, et ce qui est très bien dans le Night, c'est que t'as vraiment cette volonté de te permettre d'explorer un petit peu les zones et de te permettre aussi de progresser un petit peu. Pareil, t'as des objets pour augmenter ta vie, pour avoir de nouvelles compétences que tu trouves au fur et à mesure. Et moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans le jeu, c'est vraiment... tu explores, et puis mine de rien, tu trouves ton chemin au bout d'un moment, tu restes pas coincé éternellement, c'est plutôt bien fait. Moi, j'ai jamais eu de soucis, en tout cas.
Moi, je trouve ça bien fait, parce qu'effectivement, comme on disait, t'as toujours quelque chose à faire, c'est-à-dire que même si tu te retrouves coincé, qu'un ennemi est trop costaud, trop puissant, t'arrives pas à franchir une zone, il y a un endroit, tu comprends pas comment il faut faire, tu peux toujours aller ailleurs. Donc ça, c'est cool, et effectivement, à partir d'un certain moment dans le jeu devient extrêmement ouvert, et tu peux quasiment tout explorer, pratiquement. Voilà, mais moi, ce qui m'a gonflé, c'est ce côté, putain, mais trace la carte, gars, quoi, qu'est-ce que ça te coûte ? T'appuies sur le menu de carte, je sais plus que ça, c'est moins ou plus, ou je sais pas quoi. Et le truc te dit, il n'y a pas de carte pour cette zone. Et t'es là, genre, bah, nique ta mère. Moi, ça m'a gonflé parce que ça veut dire que... Je trouve que la mort est pas si punitive que ça.
Non, ça fait globalement, partie... ça va.
Ça va parce qu'en fait, si tu meurs...
Faut pas crever deux fois de suite, quoi.
Mais en fait, c'est pas gênant non plus, parce qu'au final, du pognon, quand tu meurs, en fait, un peu comme dans... Voilà, quand tu meurs un peu comme dans Dark Souls, en fait, ton âme reste là où t'es mort. Et tu te retrouves au dernier banc où t'as sauvegardé, ça re-sauvegarde. Mais surtout, ça retrace le morceau de carte que tu as parcouru avant de mourir. Donc finalement, même si tu meurs, c'est pas complètement punitif parce que t'as quand même tracé un bout de carte.
Et puis surtout, la carte indique où se trouve le cadavre.
Ta carte indique où se trouve le cadavre. Ce que je trouve plus gênant par contre, et qui est punitif, et qui... parce que moi, il y a des fois, en fait, je me suis retrouvé à des endroits où en fait, je crevais et j'en avais rien à foutre d'aller chercher les pièces. Donc, voilà, tu crèves, ton âme reste là, et en fait, si tu veux récupérer ton pognon, faut que tu ailles tuer ton âme.
Non, par contre,
ce qui est pas très difficile.
Là, c'est peut-être le côté ta barre de mana est divisée par deux.
Voilà, et ça, je trouve ça con. Parce que ça veut dire que tu peux pas juste. Enfin, si tu veux, pour laisser tomber. Ce qui, moi, m'est arrivé de temps en temps à me dire, bon, de toute façon, j'ai été exploré tel. Ça m'est déjà arrivé, en fait, de me retrouver à dire, j'ai été exploré aussi profondément dans la zone que ça. Je suis arrivé plus ou moins à un cul-de-sac, j'étais en fait en train de revenir, je suis mort. Je reviens au banc, ça trace le truc, je me dis bon ok, la carte elle est tracée, et en fait bah, maintenant je m'en bats les couilles, je vais pas y retourner, donc je suis obligé d'aller en gros me suicider à un autre endroit pour pouvoir aller retuer mon âme à cet endroit là au lieu de l'endroit d'origine, pour pouvoir récupérer ma barre de mana, alors que enfin voilà, je comprends l'intérêt, je comprends le design du truc, mais j'aurais préféré presque une option pour dire abandonner mon âme finalement, ça m'aurait presque intéressé d'avoir une option qui me permette de faire ça.
Une option suicide.
Ouais, pratiquement hein. Parce qu'il y a des fois où vraiment, tu t'explores un bout de truc, tu te rends compte que c'est un cul-de-sac, ou t'as pas compris, ou je sais pas quoi, et plutôt que de revenir en arrière, dire suicide, le banc, et pas besoin d'aller rechercher mon âme, je veux juste aller tracer la carte. Moi, ça m'aurait très bien été, hein, dans certains cas.
J'avoue que moi, c'est pas un truc qui m'a gêné, dans le sens où ben, j'allais récupérer mon âme, quitte à mourir avant, de manière assez honteuse, et perdre 10 000 pièces.
Alors, 10 000 pièces,
ça fait mal. Et juste pour finir, moi, sur les qualités, donc il y a ce côté vraiment exploration libre que je trouve vraiment très chouette. Et un sujet qu'on n'a pas trop abordé jusqu'à présent, même, je pense, de manière générale, dans l'émission, c'est la partie un petit peu combat, entre guillemets. Hollow Knight, c'est un jeu qui se joue au corps à corps, alors Metroid se joue à distance. C'est une différence qui est assez intéressante. Mais à côté, du coup, on a un personnage qui va du coup devoir affronter cet adversaire donc, au contact. Et moi, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement réactif quand tu veux te déplacer et quand tu veux combattre. Et mine de rien, bah, ça, dans un Metroidvania, c'est très très agréable d'avoir ce genre de flexibilité dans le personnage. Donc en plus des compétences, enfin, juste le fait de pouvoir, par exemple, ne serait-ce que quand tu tapes sur un ennemi, en étant au-dessus de lui, en tapant vers le bas, tu rebondis.
Oui.
C'est à la fois une technique de combat, mais aussi une technique de déplacement.
Une technique d'exploration.
Et pour avoir vu des speedruns, certains joueurs un petit peu expérimentés profitent de cette technique qui était prévue par les devs pour passer un passage plus rapidement ou même carrément sauter une zone qu'ils n'auraient pas pu accéder.
Et c'est un truc que tu découvres assez, j'allais dire, de manière assez organique en plus dans le jeu.
Oui.
Tu vas vite le tenter
en fait. Voilà. Naturellement, tu vas.
Puis en plus, c'est super efficace contre certains boss, en fait, cette espèce de thrust, cette espèce de coup d'épée vers le bas. Il y a certains boss où tu les défonces littéralement si tu utilises ça.
Bah, si t'es bon, tu peux faire comme dans Shovel Knight, alors c'est tout
à
l'infini.
Ça, c'est à peu près ça, ouais.
Et c'est assez chouette. Et enfin, pour finir, alors par contre, ça, je sais que c'est quelque chose qui, toi, Mortal, t'as un peu moins plu. C'est un jeu qui a beaucoup de secrets, en fait, et qui est très obscur sur beaucoup de ses secrets, ce qui est un petit peu dommage, parce que notamment la vraie fin... Si tu ne sais pas où faut aller, tu ne la verras pas, hein, globalement. Ce que je trouve un peu dommage, parce que ça vaut le coup, en fait. Enfin, je dis pas que tu comprends toute l'histoire, parce que clairement, le scénario est obscur au possible. Mais t'as quand même des défis supplémentaires, et vraiment, il y a, je pense, 5-6 heures de plus que si t'avais fait le jeu normalement. Peut-être pas autant, mais... voilà, t'as quand même quelques heures de jeu en plus pour obtenir cette vraie fin. Et c'est quelque chose qui est caché, donc qui est plutôt une bonne surprise quand tu le découvres par hasard. Moi, j'ai fait la soluce. Mais ouais, ça fait partie aussi un petit peu du lore de Hollow Knight et du charme, c'est qu'il y a énormément de choses optionnelles et cachées dans le jeu. Que ce soit des techniques de combat,
des boss, artefacts, des objets, des charmes.
Il y a des boss qui sont là uniquement pour être tués dans des challenges encore plus difficiles petit à petit. Enfin, c'est un jeu qui est blindé de contenu en vrai, et c'est pour ça qu'il fait facile 30 heures pour être terminé avec la vraie fin.
Petite question, pur intérêt personnel, si tu as la mauvaise fin, tu sais que tu as eu la mauvaise fin ?
Non, t'as vraiment rien, enfin, c'est-à-dire que tu...
Tu le sens.
Tu le sens plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait, moi je savais pas du tout, en fait, j'avais vraiment pas regardé rien du tout dessus, je l'ai vraiment fait, pas tout à fait à l'aveugle, mais presque. Moi, il y a vraiment, enfin, on en a parlé. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup frustré dans le jeu. C'est le fait que, alors, c'est très ouvert. J'aurais préféré être un poil plus guidé par moment. C'est-à-dire que le fait d'avoir 2-3 options, je trouve ça bien. Le fait d'en avoir 40, je trouve ça lourd. Surtout qu'il y a vraiment des moments où t'as toujours quelque chose à faire. Donc c'est jamais frustrant. Au pire des cas, t'ouvres un peu la carte, mais c'est pas toujours le cas. Il y a vraiment des zones très compliquées. Je pense à la mine de cristal notamment. Où tu peux y entrer par 50 chemins différents, et en fait Cornifer il est genre en plein milieu, donc d'ici à ce que tu le retrouves il va se passer un moment. Bref, je me suis déjà étalé dessus, mais voilà, le deuxième côté effectivement un peu frustrant, c'est que il y a un moment où j'ai récupéré un truc qui s'appelle la marque du roi. Alors c'est pas un gros spoil, hein, ça fait partie du déroulement normal du jeu, donc vous le récupérez relativement tard, on peut le récupérer tôt, on peut le récupérer tard, on peut le récupérer un peu comme on veut, et juste t'es là genre ok, et donc what. Effectivement, bah, je savais pas du tout où aller, donc là j'étais obligé d'aller regarder une soluce aussi. Alors, comme pour trouver Cornifer dans Deep Nest, en fait. Parce que aucune idée d'où il fallait aller. Et en fait, c'est un jeu qui est un peu obscur, et il y a des fois où on te donne pas tant d'indices que ça. Et autant j'ai bien aimé le fait qu'une fois que t'as trouvé la cité des larmes ou la cité des pleurs, tu croises les trois rêveurs. Non, c'est pas un gros spoil aussi, hein, c'est pareil, c'est vraiment dans les premières heures de jeu. Hein. on te donne en fait on te dit où sont les trois rêveurs sur la carte, mais ils sont paumés au milieu de l'immensité noire de la carte parce que de toute façon ils sont très loin et t'arriveras jamais à les atteindre comme ça. Donc on te donne trois indices pour te rappeler qu'il y a quand même un objectif à la fin. Mais finalement pas plus que ça, parce qu'il faut que tu te démerdes pour y aller jusqu'à cet objectif, et c'est pas évident du tout. Donc ça, je trouve ça cool, ça me dérange vraiment pas. Ce qui m'a fait chier, c'est qu'effectivement, je suis arrivé à la fin, j'ai battu le boss de fin, j'ai regardé la cinématique de fin, ça m'a paru hyper prévisible, au sens où je me suis dit, ah oui, ok, donc c'est très con. Et puis j'ai raccroché le jeu, je me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis dit, c'est juste un mauvais scénario, quoi. Et finalement, ils savaient pas comment finir, ils ont fini comme ça. Et c'est après que je me suis rendu compte que non, ça c'était la bad ending, et en fait, il y avait une good ending. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la good ending, si t'es motivé, c'est pas du New Game Plus, mais pratiquement. C'est-à-dire qu'il faut découvrir apparemment quasiment toute une zone à part entière, avec des challenges un peu plus difficiles, avec... Enfin voilà, c'est vraiment, faut bosser
ouais,
pour l'avoir.
Il y a une zone de plateforme assez vénère. Hein.
Mais le problème, c'est que... Enfin, je vois pas comment tu peux le découvrir tout seul, quoi.
Ah non, mais comme je disais, moi, je vais avec la Solus. Hein. Après, le bad ending, moi, ça s'est senti parce que le boss final était un peu anticlimatique, comme on dit.
Bah, la cinématique de fin, surtout, moi, j'ai trouvé ça tellement prévisible, en fait, que...
Même le boss, j'étais là, genre, c'est tout.
Non, ça passe.
Je l'ai poutré en 2 minutes. Je l'ai poutré vraiment vite. Hein. J'étais un peu genre, ah. Et après, effectivement, quand tu vois la fin et le vrai boss, t'es, ah, d'accord.
Ça, moi je sais pas, j'ai fait une... C'est pas le boss le plus dur du jeu.
Je pense que le vrai boss de fin, c'est de tous ceux que j'ai affronté, c'était le plus vénère, mais j'ai pas fait tous les boss.
Alors moi c'est pareil, je suis tombé sur des boss optionnels, simplement parce que c'est toujours pareil, je savais pas où aller. Je savais pas où était la suite du scénar, la vraie, c'est-à-dire finalement où est-ce qu'il faut aller. Donc il y a plein de chemins que j'ai pas découvert, donc il y a des trucs où je me suis compliqué la vie pour rien. Il y a des endroits où je suis allé et où j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le chemin pour rien parce qu'au final j'ai rien ramassé. Je pense notamment aux falaises dans lesquelles il n'y a rien. C'est vraiment la zone qui sert absolument à que dalle.
Alors si.
Ah si, putain, je vois pas à quoi.
Il y a des trucs.
Ah non, mais il y a des trucs à trouver, je dis pas. Mais je vois pas l'intérêt. Pareil, comment dire. Attention, là c'est un gros spoil. Bouchez-vous les oreilles. L'aiguillon du rêveur. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Dreamer's Nail. Il m'a fallu je sais pas combien d'heures pour comprendre à quoi ça servait.
Ça sert à avoir la vraie fin.
Bah ouais, mais du coup, comme il faut ramasser plein de merde entre deux, moi ça m'a plus gonflé qu'autre chose, quoi. Parce qu'à un moment, j'en ai ramassé hein, des machins pour lui gonfler sa gueule à l'aiguillon du truc. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, le truc il sert à rien, c'est même pas une nouvelle arme. C'est-à-dire que ça aurait été une nouvelle arme ou un truc un peu vénère. Ok, tu vois, l'upgrader et tout ça, j'aurais eu la motivation de le faire. Là, on te dit pas à quoi ça sert, on t'explique pas à quoi ça sert, on te dit qu'il faut aller ramasser des trucs, tu le fais 2-3 fois, ça t'apporte quasiment rien, donc moi j'ai laissé tomber, quoi. Et c'est le genre de truc où, enfin je sais pas, pour garder un joueur motivé, moi ce que je trouve intéressant dans un Metroid, c'est qu'on passe, le jeu passe son temps à te récompenser. Donc t'en chies, mais t'as toujours une petite récompense au bout, qui est pas toujours très proportionnée à l'effort que t'as fait, mais t'as toujours un petit truc. Là, il y a des boss, enfin je suis désolé, j'ai fait un boss optionnel, tiens voilà, on dit dans le chat il est un peu raccro le truc, mais c'est vrai. J'ai fait un boss optionnel dans le Forgotten Crossroads, donc les routes oubliées ou les chemins croisés, ou je sais pas comment ça s'appelle en français, qui est une espèce de grosse araignée sur pattes qui lâche des boules de merde là. Mais en fait je l'ai juste fait parce qu'à un moment je me suis rendu compte que je savais plus du tout où aller, donc j'ai essayé des trucs un peu au pif, je suis tombé là-dessus, j'ai fait le truc, je me suis dit ah mais ça se trouve c'est ça la suite du scénar, puis en fait non, je suis revenu dans le Forgotten Crossroads, et en fait c'est juste un boss optionnel, et il servait à rien, il m'a rapporté un charme, donc je me suis même pas servi parce que je sais plus ce que c'était, mais c'était un peu nul. Moi je trouve ça plus frustrant comme expérience qu'autre chose. Alors oui, t'as toujours une récompense au bout, mais quand ça fait 20 heures que tu joues et que t'arrives vraiment pas à trouver la fin du jeu, ben moi j'en ai juste un peu marre, quoi. Donc au bout d'un moment, j'aurais apprécié, on en parlait il y a 2 semaines, j'aurais apprécié d'avoir un charme qui me permette de dire, bah, ce serait bien d'aller par là.
C'est vrai que c'est con. Le sixième sens.
Bah pourquoi pas. C'est con, mais je comprends pourquoi on encense le jeu, je dis pas que c'est un mauvais jeu. Je dis juste que finalement, si c'est un jeu où c'est plus simple d'avoir la Solus à côté, bah, je trouve ça un peu dommage, quoi.
Je pense que le faire... intégralement avec la Solus, tu perds un petit peu du charme aussi du côté exploration et de la satisfaction de trouver les zones. C'est ce qu'on disait sur Super Metroid. C'est le côté un petit peu, ah, j'ai trouvé le chemin tout seul. Par contre, je peux comprendre que trop d'options, oui, effectivement, ça peut devenir vite énervant quand t'as envie de finir le jeu et que t'as pas forcément beaucoup de temps.
Bah, c'est... Même en dehors de ça, quand t'as envie de finir le jeu parce que tu te sens en capacité de le faire. Tu vois, c'est con, mais... Pareil, j'ai battu le Watcher's Night, on en parlait aussi il y a deux semaines, qui est probablement le boss, alors peut-être pas le plus difficile du jeu, mais on va dire qu'il est quand même costaud. Donc c'est le fameux bousier, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est un boss qui est hyper difficile. Faut vraiment être costaud. Et en fait, c'est une fois que je l'ai battu, enfin, quand j'ai fini le jeu, en fait, j'ai été regarder un peu des bouts de Solus pour voir s'il y avait des gens qui avaient des moyens plus faciles de le battre. Je me suis rendu compte que tout le monde le faisait avec je sais plus quel charme que moi j'ai jamais trouvé. Parce que bah, c'était plus simple. Bon, voilà, être un tout petit peu guidé là-dessus. Donc, pas au point d'être. Pas Navi. Si je demande pas en aller jusque-là, genre, hey, listen, ce serait bien d'aller dans la montagne de la mort. Okay,
non, c'est le pire, c'est fail. Hein.
Oui, on va peut-être pas détailler tous les sidekicks merdiques de la série Zelda si on est. Mais voilà, c'est pareil, la difficulté ne me rebute pas. Le fait d'avoir recommencé une cinquantaine de fois le Watcher Knight, bah, je m'en fous finalement parce que chaque fois que tu le recommences, tu progresses un peu. Toujours pareil, le fait d'explorer des zones qui servent pas à grand-chose. Bah, au début, c'est pas très gênant parce qu'effectivement, t'avances toujours, tu récupères un item, tu récupères un bout de masque, tu récupères un charme, tu découvres un truc qui va améliorer ton aiguillon, t'as l'impression d'avancer, mais au bout de 15 heures à tourner en rond, voilà, et que t'arrives pas à même trouver le moindre rêveur, moi je trouve que. Alors, peut-être que ça aurait été intéressant de baliser un peu plus le chemin vers le premier rêveur, par exemple.
Les rêveurs sont quand même indiqués sur la carte.
Bah ouais, mais putain, va trouver le premier, quoi.
Le premier, c'était pas le plus dur, je crois que le plus dur, c'était le deuxième. Enfin, moi, il y en a un, je sais que j'ai mis du temps avant de trouver le chemin exact.
Oui, il y en a... Mais non, il y en a... Ah oui, il y en a deux, en fait. Il y a celui qui est dans... Alors, attention, spoiler, celui qui est dans Deep Nest, il est... Parce que Deep Nest est compliqué. Celui dans la Cité des Larmes, en fait, il est assez évident. C'est-à-dire que tu vois bien à peu près où il est, tu vois bien que pour y aller, il va falloir des trucs en plus. Mais voilà, j'aurais pas été contre un mode facile, non, mais peut-être qu'un mode guidé, tu vois, ça aurait pas été idiot.
Oui, bah après, ça
quitte à te dire en New Game Plus, tu peux l'enlever, quoi.
Ça peut être aussi du level design un peu plus travaillé, qui donne plus d'indices visuels pour ceux que ça intéresse. Il y a les derniers Tomb Raider qui proposaient carrément d'ajuster la difficulté des énigmes et des phases de plateforme en mettant les indications plus ou moins visibles, c'était assez intéressant.
Bah ouais, mais voilà, j'aurais vraiment apprécié une option de ce type-là.
Après, c'est du taf, hein, clairement.
Ah non, clairement, oui.
Mais bon, ça pour dire que Mortal, je trouve que vous êtes en train un petit peu de pinailler beaucoup sur le Knight, qui reste un très bon jeu, et je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites.
Mais monsieur, je comprendrai. Non, enfin. J'ai apprécié le jeu, vraiment, hein, mais je mettrais pas un 10 sur 10, quoi. Je trouve qu'il y a quand même quelques défauts qui sont très gênants, qui lui en... Ça n'enlève rien, en fait, que c'est un très bon jeu, et que j'ai quand même passé un très bon moment dessus, et j'aurais pas passé 25 heures dessus, et vraiment à essayer de le finir, et vraiment à me casser le cul. Bah, c'est juste qu'à un moment...
Non, je suis d'accord à dire que
trop ouvert, c'est peut-être voilà, c'était peut-être
trop long, trop ouvert, et c'est vrai que t'as des moments, t'as besoin de réduire un peu. Ça reste un jeu de qualité. Hein. Allez-y.
Non mais un jeu de qualité, voilà. T'enlèves Deep Nest, je pense que ça passait mieux.
Pourtant, ouais, c'est la meilleure zone. Enfin, c'est la zone que j'aime le moins, mais en vrai, c'est la meilleure zone. C'est vraiment réussi.
Bah ouais, mais tu voilà, je le fait qu'on en fait on te lâche peut-être par la main trop tôt. C'est peut-être le d'un point de vue design finalement. Je trouve que, en fait, au début, c'est vraiment presque linéaire. C'est-à-dire que tu récupères le premier item, ça ouvre un bout de carte, tu récupères le deuxième. Donc, t'as parfois plusieurs chemins pour aller du premier item au deuxième item, mais finalement, t'as quand même l'impression d'explorer. Je trouve que c'est suffisant comme impression d'exploration au départ. Je crois que c'est à partir du 4 ou 5e item, je me souviens plus exactement, où là, on te lâche complètement. Et je pense que ça aurait peut-être été intéressant à ce moment-là de te donner plus d'options, c'est-à-dire de dire t'as 3, 4, 5 options, mais... de limiter quand même un tout petit poil le truc de sorte à ce que tu te retrouves pas complètement largué. Ben c'est... Voilà. Ça aurait peut-être été bien d'être un poil plus progressif. Après, je trouve que le jeu fait des choses très bien. Enfin, je veux dire, le fait que la Team Cherry ait dit on s'en bat les couilles que vous trouviez pas tout, c'est pas l'objectif. Je trouve ça quand même assez ouf d'assumer à ce point-là le fait de dire vous trouverez pas tout à votre première run et c'est normal. Et vous pourrez quand même finir le jeu, je trouve que c'est assez, assez pété, quoi.
C'est un petit peu... moi, je trouve que sur un certain nombre d'aspects, Hollow Knight est une philosophie qui est assez proche de Breath of the Wild. Ce qui est assez dingue pour un jeu qui est genre deux jeux qui sont sortis à genre 3 mois d'écart grand max, quoi.
Ouais, c'est vrai que... c'est vrai que c'est quand même assez pété aussi, ça.
Il y a des idées de philosophie, des philosophies d'exploration et de laisser aux joueurs... le choix là, qui sont assez ma boule. La différence, c'est que Breath of the Wild, pour le coup, comme tu n'as pas besoin d'acquérir de nouveaux objets pour pouvoir vraiment progresser dans les zones, tu peux vraiment accéder à tout à n'importe quel moment à partir du moment où tu as le paravoile. Bah, c'est un petit, ça rend la chose un peu plus facile dans Breath of the Wild, je pense, là où Hollow Knight nécessite d'avoir certains objets ou compétences.
Oui, ce qui fait qu'en fait, tu peux te taper 2 heures d'exploration dans un truc pour te rendre compte qu'en fait, c'est un cul-de-sac.
Mais si ça se trouve, dans le prochain, on pourra explorer tout dans l'ordre qu'on veut.
Peut-être. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, oui, clairement, ça fait partie du haut du panier. Hein. C'est-à-dire, je crache dessus depuis le début, mais c'est...
Ouais, comme je disais, c'est presque... Je vais pas dire c'est du pinaillage, mais...
C'est un peu du pinaillage, quand même.
Mais du coup, oui, c'est clairement le haut du panier des Metroidvania actuels. Hein.
Oui, voilà, enfin, c'est quand même un jeu que je recommande fortement. D'ailleurs, Mecton, je t'encourage à le finir, hein.
Ah oui, non, mais je vais m'y remettre. En plus, là, vous m'avez remotivé.
Cool. Voilà, le seul truc, c'est que, effectivement, attends-toi à voir la bad ending.
Certainement, non, peut-être. Par contre, tu vois, là, je l'ai recommencé il y a quelques jours, histoire de...
De te rafraîchir la tête.
Non, voilà, exactement. Je me rappelle, j'en avais beaucoup plus chié la première fois, là, en le refaisant, toutes les zones de début. Enfin, j'ai réatteint le point... Non, je suis un petit peu avant. Bon, j'ai refait le jeu avec plus de facilité.
Alors, il y a un côté... ton personnage progresse parce que tu peux avoir plus de points de vie, plus de points de mana, t'as des charmes, t'as tout ça. Mais il y a aussi un côté pattern des ennemis à apprendre et ainsi de suite, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup d'ennemis. Le design des ennemis est relativement travaillé. Et en fait, c'est vrai que quand tu découvres une zone, t'as tendance à beaucoup mourir parce que tu connais pas forcément le comportement des ennemis. Et que dès que tu commences à le connaître, tu sais un peu plus comment réagir. C'est-à-dire, il y a des fois, faut rester un peu plus en arrière. Mmh. Des fois, faut être très agressif, faut attaquer par le dessus. Donc, à part quelques ennemis, moi, c'est vrai que voilà, au début d'une zone, quand tu découvres les premiers ennemis, tu t'en chies un peu. Mais une fois que tu maîtrises, c'est vrai que ça va plus vite. De ce point de vue-là, c'est assez bien foutu aussi. Mmh. Tu progresses dans ton skill et dans ta façon d'aborder les choses. Non, mais enfin oui, voilà, c'est un bon jeu, d'accord, mais un peu comme Axiom Verge, en fait. C'est-à-dire que le côté hyper dithyrambique de tout le monde, ça m'a vite gonflé, parce qu'en fait, bah non, il a des défauts, et c'est pas des petits trucs, c'est vraiment des choses qui sont très... Enfin, je trouve qu'ils plombent un peu l'expérience dans certains cas. Pas tous, hein. Encore une fois, il y a de très bons moments, il y a de très belles découvertes, il y a des moments super satisfaisants. Et effectivement, le fait d'avoir des boss... J'ai trouvé que le côté on te lâche et tu te démerdes était beaucoup plus frustrant que les boss. Allemands sont parfois... sont jamais frustrants parce que tu sais toujours que tu vas y arriver. Je trouve que c'est ce côté exploration trop ouverte qui est parfois inutilement frustrant.
On a des nouvelles de Silk Song ?
Pas pour l'instant, non.
Et alors, okay. En plus, avec les... Apparemment, en Océanie, ils sont bien confinés jusqu'à la fin de l'année, donc je pense qu'ils pourront pas envoyer le jeu tout de suite.
Ça va être compliqué.
Surtout en démat, quoi.
C'est malin.
Ouais,
bref. Ouais. On va peut-être se quitter là, Kiki, parce que ça commence à faire long, là, je suis en train de regarder l'heure.
Ouais, une demi-heure de débat, vous avez dit.
Ah, on avait dit. Puis on est presque à la fin de la playlist, donc de toute façon, il va falloir arrêter. voilà, c'est pas souvent qu'on arrive à la fin de la playlist. Hein. Je sais que quand on arrive à la fin de la playlist, c'est qu'on est vraiment... on est au bout, et encore, le jingle de sortie est pas passé, c'est déjà arrivé une fois dans une émission. On a fait très très long. Bref, donc on va s'arrêter là. On espère qu'on vous aura donné envie de jouer à quelques-uns de ces jeux ou éventuellement de vous replonger dans des Symphony of the Night, des Castlevania GBA, du Super Metroid, du Metroid Prime.
Oui, bah en plus avec la boutique de l'eShop, enfin de la Switch, vous avez quand même pas mal de choix de jeux Metroidvania qui ne sont pas Metroid ou Castlevania. Donc,
très clairement, il y a du monde au balcon et Yoku's Island Express... vous pouvez y aller, en plus c'est vraiment accessible à tous les âges et pas frustrant. Moi, Axiom Verge, j'ai pas compris, mais j'ai pas regretté d'y avoir joué, donc bonne expérience, essayer de le choper à pas cher.
En plus, il y a Verge dedans.
ce qui est un gros bonus. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Bref. Hollow Knight, donc voilà, même si je suis relativement critique sur le jeu, c'est pas tellement critique, c'est du recul plus que de la critique. J'espère que la Team Cherry pensera à moi pour Silksong, auquel j'ai envie de jouer aussi. Hein.
Ouais, pour l'instant, Silksong, au niveau déplacement, ça risque d'être à peu près au poil, comme le précédent, voire mieux.
Ah oui, ça risque d'être comme ça. Bref, on va se retrouver dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ce sera la dernière émission de l'année.
Alors, on vous parlera des jeux qu'on aura testés et qui ont été présentés à l'E3. Bon, attends, merde, pas cette année.
Non, pas cette année, je pense que c'est un peu mort. Nintendo. Pas de petits fours, pas de sushi. Voilà, donc du coup, je pense qu'on se fera soit un Burger
pas de
Quiz...
Pas d'autres annuel.
Oui, voilà, pas de... Alors, je sais pas ce qu'on fera. En tout cas, enfin, on fera probablement un jeu, un petit Burger Quiz ou tout ça. On fera peut-être un petit tour d'actu pour voir s'il s'est passé des choses. C'est vrai que c'est un mois de juin très vite par rapport à d'habitude, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc en tout cas, quoi qu'il arrive, on aura un petit jeu. Alors, soit un Traductotron, soit un Burger Quiz, on trouvera autre chose, il n'y a pas de problème. J'ai pensé à une idée de jeu, mais j'ai pensé un petit peu en off, je pense.
Voilà, tu vas boire ?
Peut-être.
Dans un bar ? Incroyable !
Mon dieu, une émission en direct, qui sont vraiment dans un... on va faire un beer pong. Bref, voilà, en tout cas, on se retrouve dans 2 semaines. Bisous tout le monde, à ciao !
Ciao !
Salut !
Bisous !